Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast 532 de la rédaction de Gameblog, un podcast qui va être très chargé car on a eu une semaine d'actu de malade sur laquelle nous allons revenir tout au long de cette émission. Avec moi cette semaine, nous avons Thomas.
Hello!
Voilà, le plus quantilien qui lui est allé à la rédaction finalement.
Eh ouais, voilà, à cause des problèmes de réception et de la connexion quantilienne.
Voilà, et c'est pas beaucoup mieux à la rédac, je sais pas ce que tu as utilisé comme matos, mais c'est pas mieux. Voilà,
c'est pas ce
désolé.
Qu'on aide.
Franchement, Thomas, entre nous. Camille, évidemment, est aussi avec nous, toujours avec son livre de Louis XV juste derrière, pour ceux qui nous voient en vidéo. Très
que
important.
Thomas apprécie tant.
Exactement. Keanu Reeves et Louis XV, si vous voulez connaître la vie de Camille, vous vous fiez à ces deux images que vous voyez à l'écran. Et avec nous cette semaine, et on est très content de l'avoir, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu en podcast, c'est Dopamine.
Bonjour à tous, salut. Ça va, ça va. J'ai pu récupérer un petit peu, mais ça va.
Ouais. Tu as eu une actualité autre qui était très chargée ces derniers mois. Ça nous fait d'autant plus plaisir que tu puisses peut-être te détendre un petit peu en notre compagnie. Au moins pendant une heure et demie, deux heures, peut-être trois heures, on va essayer d'être un peu plus concis que d'habitude. Alors cette semaine, au sommaire, nous avons, comme je vous le disais, une véritable pluie d'actualités sur laquelle nous allons revenir, en commençant par Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, qui est un peu l'annonce qui nous a tous fait tiquer à la rédaction, et évidemment on terminera cette séquence avec Ghost of Tsushima, qui lui s'est remontré pour le coup, il nous en a montré bien plus que d'habitude jusqu'ici. Le thème numéro 2, vous l'avez vu hier, puisque nous sommes maintenant mercredi, eh bien Mafia est de retour, il y a une trilogie qui a été annoncée, et Mafia 2, lui, est sorti ce 19 mai. Camille, par le plus grand des hasards, a réussi à y jouer. On ne sait pas comment. Et il va nous en parler, évidemment, de ce Mafia 2 Definitive Edition. Et puis, en thème numéro 3, on va revenir sur les impressions de Dopa, justement, sur F1 2020, sachant que F1 2019 était déjà peut-être le top du top des vedettes de la Formule 1. Eh bien, est-ce que le 2020 est en passe de faire encore mieux? Il nous dira ça tout à l'heure. Il y aura évidemment les rubriques habituelles avec le win, le fail, il y a 10 ans sur Gameblog, l'anniversaire de la semaine et le hors-jeu. Le hors-jeu, encore une fois, qui va mettre Thomas à contribution. Et ça va encore être une série, c'est incroyable. Il se passe des choses pendant cette période, vraiment 2020.
Ça devient du harcèlement oui, devant témoin en plus.
Absolument. Et j'assume. Voilà, tu peux me faire un hashtag sur Twitter, ça te fait plaisir. T'inquiète pas, tu auras peut-être du soutien. Mais
tu ne le mérites même pas.
Le harcèlement continuera. Alors, on va commencer avec le win de la semaine, évidemment. Et le win de la semaine, eh bien, Dopamine, ça concerne un jeu qui est sorti il y a, 6 ans, et pourtant.
Il y a 6 ans ?
Oui, il y a 6 ans, ouais. Non, attends, 7 ans !
On parle de bien du même, là.
Je
suis perdu.
Mais si, tu étais encore à la fac.
Oui.
Ah, il n'y a pas 6 ans, il y a...
7 ans, 2013.
2013.
17 septembre 2013.
Ah, pour moi, c'était sorti, le Tony Hawk original, il était sorti bien avant ça, c'était en 2000 pour moi. Ah, j'étais complètement à côté, alors.
Mais non, rappelle-toi, on parle du win, Dopamine, le win.
Ah, pardon, moi j'étais encore sur Tony Hawk.
Ouais, je sais, c'est notre win à tous, on a tous envie que ce soit notre win de Tony Hawk, mais là, on est sur le win de la semaine.
Non, c'était le win, ça, effectivement. GTA 5, de toute façon... Moi, ce qui m'a étonné là-dessus, sur ce win-là, donc c'est sorti sur l'Epic Game Store et c'est gratuit. Ça l'est toujours d'ailleurs au moment où on enregistre. Et ça va l'être encore, je ne sais plus jusqu'à quand, mais ça ne va pas l'être indéfiniment. Hein, donc,
jusqu'à ce jeudi 21.
Voilà, donc jusqu'au 21. Donc si vous voulez le choper, dépêchez-vous. Ou il aura fallu vous dépêcher si vous êtes arrivé trop tard, malheureusement. Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'il ait réussi à faire tomber les serveurs quand même. Parce qu'apparemment, évidemment, la nouvelle, quand elle est arrivée, tout le monde s'est rué sur les serveurs Epic. Ça a aussi mis down d'autres jeux de Epic. En fait, c'était inaccessible pendant quelques temps. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, apparemment. Et moi, ça m'a un petit peu surpris, parce qu'évidemment, GTA V, c'est un monument. Mais quand même, de là à mettre les serveurs par terre, moi, je pensais que tout le monde y avait déjà joué ou y avait déjà touché d'une façon ou une autre. T'as tel record de vente, je sais pas à combien ils sont au niveau des chiffres, GTA 5.
120 millions, plus 120 millions.
Voilà, c'est un truc de dingue, quoi.
C'est inimaginable. Un jeu qui s'est déjà vendu à 120 millions d'exemplaires, tu le mets gratuit, il y a encore des gens qui l'ont... Bah, remarque, on est quelques milliards, hein. Donc après, ça paraît presque normal, mais... Mais c'est vrai que ça a foutu un coup à Epic, ça a foutu un coup à Rockstar aussi, qui a eu des problèmes de launcher dans la foulée ce week-end. C'est GTA V, quoi. On ne peut pas comprendre. C'est comme quand Thomas regarde des séries, c'est impossible à comprendre.
Après, moi, j'avoue que pour l'instant, je l'ai rajouté dans la bibliothèque, je ne l'ai pas encore retéléchargé. Moi, j'y avais joué à l'époque sur console, donc je vais voir ce que ça donne aussi sur mon PC, simplement par curiosité, et puis... Si ça se trouve, je vais enchaîner après dessus, quoi, parce que c'est tellement prenant. Au moins l'histoire principale, et puis enchaîner après. De toute façon, c'est un jeu qui continue à vivre encore aujourd'hui avec le multi, qui fait encore de très bons scores en multi, qui a encore du contenu, qui a encore une actu là-dessus. Donc, qui a eu une communauté fidèle et qui continue à jouer, ok, pas de souci. Maintenant, le succès qu'il y a eu là sur cette mise en gratuité chez Epic, ça a mis vraiment un gros coup de projecteur. Mais on a eu droit à pas mal de choses ces derniers temps en confinement, pas mal de belles friandises pour se consoler d'avoir été à la maison, et ça fait partie, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau là pour nous en tout cas. Alors c'est valable dans le monde entier, mais pour nous en tout cas, c'est une petite cerise là sur la fin, on l'espère, de cette période compliquée.
Exact, c'est vrai qu'on peut appeler ça comme ça, et il en reste encore puisque le prochain jeu Epic Game Store, qu'on ne connaît pas encore, est aussi un jeu surprise, et il y a déjà des fuites rumeurs qui font état de Civilization 6, Borderlands The Handsome Collection, et je ne sais plus quel est le troisième jeu qui a été soi-disant leaké, on n'en sait rien encore si c'est vrai, mais effectivement Epic est en train de faire des très très gros coups, et là pour GTA, après le Xbox Game Pass déjà, qui était déjà une bonne chose, c'est faut dire que là, avoir tous les joueurs PC d'un coup sur GTA V, qui vont pouvoir aussi essayer le fameux mode GTA RP, que beaucoup de gens sont en train d'expérimenter en ce moment, qui permet d'avoir un vrai roleplay à l'intérieur du monde de GTA, et dont je suis très curieux. Enfin bref, GTA V sur l'Epic Game Store, c'était le win de la semaine et le fail, Camille.
Ouais, voilà. Alors, ben c'est moins sympa. Là. J'étais un des premiers attristés à la rédac. Puisqu'on savait que Elder Scrolls numéro 6 n'allait pas arriver tout de suite. On était au courant de ça, que ça n'allait pas sortir cette année ni l'année prochaine. Mais apparemment, ça serait encore plus lointain puisque ce bon vieux Pete Hines a tweeté donc, sur son compte officiel que... Alors, je vais vous lire le tweet exact. Donc, les infos concernant The Elder Scrolls 6 arriveront après la sortie de Starfield, un jeu dont vous ne savez encore presque rien. Alors, si vous me demandez des détails aujourd'hui plutôt que dans plusieurs années, je ne pourrai pas correctement répondre à vos attentes. Donc oui, effectivement, Starfield, c'est le gros projet aussi qui est en développement chez eux. On ne sait absolument rien à part un maigre teaser qu'on a eu il y a 2 ans ou 3 ans. Donc effectivement, ça fait un peu maigre. Elder Scrolls 6, on sait plus ou moins que le développement avait commencé, en tout cas les rumeurs, c'est ce que les rumeurs disaient, mais là vraiment c'est un peu la fin de l'excitation, on va dire, puisque là je sens vraiment qu'on va y avoir droit pas avant 2024-2025, je pense, quand on sait déjà Skyrim avait déjà eu un très long développement. Je me souviens à l'époque, j'avais suivi quand il y avait le développement de Skyrim, j'achetais encore des magazines de papier, c'est pour vous dire. Enfin, mon père me les achetait à l'époque, avec mon argent, j'avais même pas assez d'argent de poche pour le faire. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que énormément de gens attendent. On ne sait quasiment rien dessus, on sait même pas sur quel lieu géographique se situe l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment
Là, ça fait une chape de plomb en fait. Ça fait 10 ans là qu'il n'y a pas eu d'Elder Scrolls nouveau. En tout cas.
Ouais, et en plus surtout qu'ils l'ont sorti Skyrim sur vraiment toutes les plateformes. D'ailleurs, Pete Sainz lui-même avait ri de ça lors de la présentation de l'E3 l'année dernière, en disant oui, bientôt ça sera peut-être même disponible sur votre frigo. Enfin, il y avait vraiment toute une histoire autour de ça. Enfin, c'est vrai que entre les versions anciennes générations de consoles, plus les versions PC qui ont été remasterisées, etc. Évidemment, aussi sur PC, le jeu a beaucoup vécu par le mode, puisque le jeu est encore bien vivant, il a encore beaucoup même acheté lors des soldes. Donc voilà, on peut comprendre aussi ce désir du studio de prendre son temps pour pas décevoir la communauté, puisqu'on se doute de toute l'attente qu'il y a derrière. Donc effectivement, c'est un jeu qui va réclamer beaucoup de temps de développement. Mais voilà, on espère surtout qu'ils vont éviter l'écueil de Skyrim, c'est-à-dire faire des fausses promesses. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Skyrim, il y avait des promesses comme quoi oui, alors tous les PNJ auront une vie quand on sera même quand vous jouez pas, les PNJ auront une vie.
Ah oui, ils avaient une vie.
Pas à l'écran.
Ouais, il reste sur place. J'adore le jeu, hein, mais il reste sur place. C'est pas ça leur vie.
Il y avait même le truc qui m'avait choqué, c'était la fameuse annonce comme quoi il y aurait un cycle météorologique intelligent et qu'il y aurait un système de fonte de la neige au fur et à mesure selon les cycles météorologiques, alors qu'on sait évidemment que ça n'a jamais eu lieu. Donc on espère qu'ils vont éviter cet écueil-là pour Elder Scrolls 6, mais en tout cas, on espère aussi surtout que le moteur graphique va changer, puisque là c'est un peu le gros problème de Bethesda, c'est de proposer des jeux avec un moteur graphique vieillissant voilà, ça la foutrait un peu mal que leur prochain gros titre tourne encore sur un moteur qui a 10 ans d'âge, quoi.
Bah, très bien, donc malheureusement Elder Scrolls 6 c'est pas pour tout de suite. Ouais. Mais tout de suite on va parler un petit peu, bah tiens, on parlait d'il y a 10 ans justement pour Skyrim, bah il y a 10 ans sur Gameblog, c'est maintenant. Thomas, il y a 10 ans sur Gameblog, ça commence avec quelle news aujourd'hui ?
Eh bien, on s'amusait bien, puisque il y a 10 ans sur Gameblog, on vous parlait d'un sacré troll, mais un troll sympa, un type qui avait décidé de maintenir en vie à lui tout seul le Xbox Live Arcade de la première génération de Xbox, celle qui s'appelait juste Xbox, à un temps où les choses étaient beaucoup plus simples, puisque Microsoft avait annoncé l'arrêt des serveurs justement pour sa première console. Sauf que une petite bande de joueurs s'était dit que ça n'allait pas se passer comme ça, et comme en fait ils se sont rendus compte et ils ont eu confirmation de la part du constructeur américain qu'ils n'allaient pas être virés des serveurs, et bien ils s'étaient dit qu'ils allaient squatter le plus longtemps possible les serveurs d'Halo 2 pour maintenir en vie plus longtemps que prévu le Xbox Live Arcade. Et du coup les joueurs ont quand même tenu 26 jours en ligne, avec évidemment progressivement des déconnexions, et déconnexions étaient synonymes en l'occurrence de disparition, parce qu'on ne pouvait pas revenir, mais il y a quelques joueurs qui sont accrochés, et notamment Apache Nasir, dont on vous racontait justement un petit peu les exploits il y a 10 ans, qui avait été le dernier joueur sur Terre à pouvoir profiter du multi d'Halo 2. Alors, il a passé les 24 dernières heures absolument seul, mais pour la beauté du geste, il est resté en ligne. Et il nous disait que ce n'était pas pour la compétition ni pour décrocher un prix, mais simplement par amour et pour la mémoire d'Halo 2 qu'il avait entrepris ce drôle de pari. Et j'ai trouvé ça assez amusant de voir comment les joueurs pouvaient à eux seuls réussir justement quelque chose d'aussi gros face à un géant qu'est Microsoft. Je trouvais ça plutôt sympathique.
Qui avait d'ailleurs applaudi la performance, hein, Microsoft.
Ils avaient été beaux joueurs. Et ils ne l'avaient pas viré, effectivement. J'ai regardé un article sur CNET qui avait recueilli les impressions du joueur, qui avait expliqué que la déconnexion n'était pas de son fait, qu'il avait eu un petit problème à un moment donné, mais qu'il n'avait pas été éjecté des serveurs par Microsoft, qui ont donc joué le jeu jusqu'au bout.
Très bien. En deuxième, cette semaine, c'est une histoire de prix pour les jeux vidéo, dis donc.
Oui, une histoire de sous et un article qui commençait comme une bonne nouvelle, en fait, puisque le vice-président de Namco Bandai Partners à l'époque, qui s'appelle Olivier Comte, s'exprimait un petit peu sur le prix des jeux en estimant que les jeux coûtaient trop cher. Et là, on se dit, formidable, quelle bonne nouvelle pour les joueurs. Sauf qu'en fait, c'était un petit peu plus fin et traître que ça, puisqu'il rapprochait, on va dire, la durée de vie du prix des jeux. Et en fait, il expliquait qu'un jeu vendu plein pot, donc à l'époque, une quarantaine de pounds en Grande-Bretagne, puisque c'était la monnaie qui était évoquée dans l'article, il disait que pour ce prix-là, c'était difficile pour les studios de développement de toujours rentrer dans leurs frais, mais qu'ils pouvaient s'imaginer et s'attendre à trouver un juste prix de 20 pounds, mais pour des jeux qui dureraient 4 à 5 heures. Et donc, en fait, pour lui, il y avait une espèce de corrélation entre la durée de vie et le prix d'un jeu. Avec cette idée, en tout cas, c'était l'une des théories de Faskin qui nous en parlait il y a 10 ans, de peut-être tenter des trucs, lancer des bouts de jeu qui ne seraient pas forcément complets, mais qui seraient vendus à un prix moindre, pour voir si les joueurs allaient mordre ou pas, et éventuellement plancher sur des DLC, des suites, des chapitres supplémentaires, ou complètement laisser tomber le jeu si jamais ça venait à ne pas trouver son public. Et c'était un petit peu l'idée que Olivier Comte exprimait à voix haute. Heureusement, on va dire que c'est pas vraiment arrivé comme ça, C'est-à-dire que les jeux de versus fighting ont depuis très longtemps changé de modèle économique, mine de rien, avec un système de season pass qu'on retrouve, mine de rien, dans pas mal de jeux compétitifs, notamment sur PC. Mais heureusement, on n'est pas venu à payer pour une certaine durée de vie en fonction de ce que le jeu avait à proposer. Et j'ai envie de dire, heureusement.
Tant mieux, effectivement. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des news d'il y a 10 ans.
Et c'était tout, effectivement, il n'y a que deux news cette semaine. C'était une actu peut-être un peu moins florissante.
Que celle à laquelle on va être soumis immédiatement, Thomas, parce que effectivement cette semaine, enfin la semaine passée, eh bien il y a énormément de choses qui se sont encore une fois passées devant nos yeux, des annonces, des vidéos, des choses absolument phénoménales pour la plupart du temps. À commencer, on vous le disait tout à l'heure, par l'annonce d'un retour de Tony Hawk. Alors c'était la rumeur qui enflait depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, personne ne s'en cachait du côté des skateurs professionnels qui disaient même « Oui, c'est bon, il y aura quelque chose ». On attendait peut-être plus, à la limite, un nouvel épisode ou quelque chose qui s'y apparente, parce que Tony Hawk 1 avait déjà eu un remaster HD, qui était d'ailleurs d'une qualité assez médiocre. Mais là, attention, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, c'est du remake visuel total pour Tony Hawk, qui s'adapte vraiment aux machines sur lesquelles il va sortir le 4 septembre prochain. Et on retrouve quasiment tout ce qu'on avait à l'époque. Quasiment, Thomas.
Quasiment, effectivement. Et parfois dans leur jus, puisque on l'a appris en début de semaine, tous les skateurs qu'on aimait de l'époque vont a priori être présents, en tout cas les skateurs réel. On ne sait pas encore si le contenu caché sera renouvelé ou pas, mais les skateurs vont être présentés tels quels, donc avec quelques années de plus au compteur, voire quelques dizaines d'années en plus. Mais ça n'a pas l'air d'avoir, en tout cas, entamé leur superbe, comme on a pu déjà le découvrir lors de quelques premières séquences de gameplay. Mais par contre, effectivement, la tracklist a été dévoilé également un petit peu plus tôt cette semaine, et malheureusement, du coup, on pleure quelques disparitions, puisqu'il y a une partie de la bande-son des deux premiers épisodes qui, malheureusement, ne trouveront pas leur chemin dans ce remaster en forme de compilation, parmi lesquels Bring the Noise, qui était pour moi un des morceaux quand même assez emblématiques de Tony Hawk Pro Skater 2. Donc c'est quand même bien triste, mais bon, heureusement, on conserve Rage Against the Machine, Papa Roach, bon nombre des gros morceaux qu'ils faisaient, et Goldfinger aussi avec Superman évidemment, des morceaux emblématiques de ces deux premiers épisodes, qui vont a priori reprendre effectivement tout ce qui faisait le charme de l'ancien, même si pour l'instant, on a surtout découvert quelques séquences de gameplay avec des skateparks assez vides. On n'a pas retrouvé les objectifs et ces deux minutes chrono qu'on avait l'habitude de runner à fond à l'époque. Donc on attend évidemment d'en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, pour la première annonce du Summer Game Fest, c'était quand même assez chouette, parce que, comme tu l'as dit, tout le monde, ou presque à la rédac, a été plutôt ravi à l'annonce de ce retour de Tony Hawk.
Bah, quand tu vois aussi ce que ça a fait en top tweet aussi, France, etc., même US, enfin, tu vois qu'il y a eu un engouement autour du jeu qui est quand même assez grand, quoi, assez fort. C'est un jeu, je pense, qui fonctionne beaucoup à la nostalgie, comme je le disais avant l'enregistrement du podcast. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont joué soit pendant leur adolescence, soit pour leur enfance. Et du coup, ça, c'est vraiment un regain, un peu comme Crash Bandicoot. Hein. Crash Bandicoot et Spyro ont fait un succès aussi pour cette raison-là, parce qu'Activision avait joué sur la nostalgie. Et là, je pense aussi, il y a aussi un gros effet de nostalgie. Parce qu'on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient skateurs, on va dire, la mode des skateurs au collège, etc. Et tout ça a bien vite disparu. Il y a très peu de gens qui ont continué à faire du skate par la suite. Donc, c'était un peu un engouement, une période de skate, etc. Et ça permet de revenir un peu, faire un bond dans le passé pour pas cher, quoi.
Puis c'est le retour d'un feeling aussi en particulier, parce que aujourd'hui beaucoup veulent du skate 4 ou ce genre de choses qui sont des expériences qui sont autrement plus axées simulation. Mais Tony Hawk était un jeu purement arcade, purement délirant, dans lequel tu faisais mais n'importe quoi à des hauteurs complètement folles. Tu te retrouvais à grinder juste derrière un saut de 40 mètres, t'arrives comme une fleur sur ton grind, comme ça, tu l'enchaînes, alors que t'as même pas la propulsion nécessaire dans la bonne direction, mais tu grindes, y a pas de souci. Et il y avait énormément de choses, et tout ça, d'ailleurs, les premières vidéos de gameplay qu'on a vues, qui sont pas nombreuses encore hein, pour l'instant, permettre de savoir que déjà on va retrouver la warehouse qui sera le niveau qui sera proposé en démo cet été pour les gens qui précommandent, et puis ce feeling complètement délirant, les bruitages aussi. On a retrouvé absolument les bruitages qui étaient disponibles, le petit coup de d'appareil photo quand tu réussis un bon truc. Et puis tu retrouves aussi les gamelles. Là, je sais que dans une des vidéos, il y a un mec qui se ruine les genoux après une réception. Et ça fait partie aussi du truc qui fait que les Tony Hawk étaient très appréciés. C'était vraiment que t'avais le côté cool, je fais plein de trucs, mais quand tu te vautrais, putain, t'avais presque mal pour le jeu. Donc, sacrée époque, Tony Hawk.
En plus, tu le dis très justement, t'avais aussi cet aspect trophée un peu. En fait, c'est précurseur des trophées finalement, parce que t'avais in-game des trophées que tu gagnais en faisant des actions assez extraordinaires.
Les cassettes, c'est ça ?
Ouais, c'était ça, ouais. Et t'avais ça, et puis t'avais évidemment tous les secrets du jeu. T'avais les skaters spécifiques, t'avais des costumes, t'avais des skates avec des skins spécifiques, etc. Enfin, il y avait même un niveau
caché. Des niveaux secrets.
C'est ça, les niveaux secrets, etc. Des endroits dans les niveaux classiques que tu pouvais atteindre uniquement en faisant certaines actions. Enfin, il y avait vraiment un côté qui était génial, et c'est ça aussi qui a forgé le succès de ce jeu-là, quoi.
Ouais, qui va entraîner le succès de la suite aussi, parce que ça fait partie d'un cycle. Tout ce que vous racontez là, moi, c'est un jeu que j'ai pas joué à l'époque, parce que j'étais sorti justement de ce trip un peu ado. Par contre, au niveau de la musique, ça me parle énormément, hein. Du Rage, ce genre de choses, c'est des trucs aussi sur lesquels j'ai bien pogoté à l'époque. Mais ça fait partie d'une, et encore une fois, on parle de vague là, mais de jeu. Ces dernières semaines et ces derniers mois, là, il y a eu un engouement sur tout le jeu vintage, sur tous les vieux jeux, sur tous les émulateurs, qui était complètement dingue. Alors évidemment qu'ils s'y sont pas mis il y a 2 mois, hein. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent certainement sur ce remake, mais ça arrive exact au moment pile où il faut, en fait, et où on sent que cette vague d'effet, et qui a pas fini d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver comme ça, on va en parler encore un petit peu plus tard après, mais je crois qu'il arrive pile au bon moment et qu'il va cartonner, et puis ça va le faire redonder comme ça et rebondir encore un petit peu plus loin pour qu'on y rejouera encore peut-être dans 20 ans avec d'autres versions, et ça relancera peut-être la série d'ailleurs pour un véritable nouvel épisode.
C'est fort possible. Mais après, Activision, ils ont le nez creux, hein. Ils se sont dit au bon moment, tiens, Crash, on va le relancer, ça a marché. Ils se sont dit au bon moment, Spyro, on va le relancer, ça a marché. Et là, Tony Hawk, ouais, il y a plus de chances que ça fonctionne pas. Surtout que quand on voit la passion avec laquelle nous en discutons encore aujourd'hui.
Bah, en plus, c'est un jeu feel good, quoi. T'as vraiment cet aspect feel good, et je pense que c'est parfait, comme disait Dopa, à sortir dans une période comme celle-ci, quoi. C'est vraiment le jeu qui te fait, qui te fait vibrer, machin, qui te rend heureux, qui te donne le smile, comme on dit.
Exactement, le smile. Alors, l'autre annonce de la semaine dernière, il y a une autre remasterisation, mais c'est plus grosse ampleur encore que ce qu'on avait imaginé. Il y avait des rumeurs qui circulaient autour de Mafia, et finalement, on a eu droit à un petit teaser, rapidos,
exact.
Sur une Mafia trilogie avec
une fuite aussi.
Et les trois épisodes qui vont avoir droit, alors au moment où on vous parle, normalement, vous êtes censé avoir tout vu, sauf que nous, au moment où on enregistre, on n'a rien vu, donc on a juste eu droit pour l'instant à une fuite, comme tu le dis, Camille, une fuite qui montre que Mafia 2 et Mafia 3 sortent dans des définitives éditions à part de la trilogie, et ce seront des versions, on va dire, HDisées, poil mieux. Enfin, pas Mafia 3 évidemment, puisqu'il est PS4 et Xbox One de base, mais Mafia 1, donc Mafia Definitive Edition, lui, grâce à une fuite à laquelle on a eu droit un petit peu avant, grâce au Microsoft Store qui a mis en ligne directement les fiches des jeux comme ça à la fraîche, on a vu que Mafia 1, qu'on n'aurait pas imaginé être remaké complètement par 2K Games ou par Hangar 13, bah finalement, ça va être un remake visuel total aussi.
Et ouais, bah ça c'est pareil, c'était une annonce qui a beaucoup fait parler. Moi en tout cas, je sais qu'à la rédaction, je pense que j'ai été celui qui était le plus ravi de la nouvelle. Y a beaucoup de gens qui ont été fans de Mafia, en fait, déjà pour l'ambiance, à ce côté un peu Scorsese, qui est très, même beaucoup Scorsese, hein, disons clairement, très présent tout le long de l'histoire. C'est un GTA-like qui traite d'une période qui est très peu traitée dans le jeu vidéo, puis finalement la prohibition, elle n'est pas si vue que ça, elle est dans le cinéma, elle est très présente, mais dans le jeu vidéo finalement c'est très peu présent. On a eu des incursions un peu comme Hélène Noir, mais Hélène Noir c'était un peu plus tardif, c'était pas vraiment la prohibition. Mafia c'est le premier vraiment à avoir voulu traiter de cette période, et c'est vraiment c'est hyper agréable de voir un jeu tel que celui-ci en remake, puisque en tout cas moi je sais que j'ai passé des très bons moments dessus à l'époque. T'avais ce côté aussi, alors c'est moins on va dire fluide et moins il y a des mécaniques qui sont moins fun que celles d'un GTA. C'est pas le jeu n'est pas vu de la même manière en fait. Vraiment, Mafia misait beaucoup sur son ambiance et sur son histoire. Il voulait vraiment rendre un jeu scorsésien, et c'est vraiment ce qu'on a l'impression quand on joue au jeu quoi. Donc, et les premiers screens qu'on a pu apercevoir, en tout cas dans la fuite, vous en verrez plus après la diffusion de cette vidéo. Mais les premiers screens qu'on peut voir sont vraiment vraiment très beau. On sent qu'il y a un gros travail qui a été fait. Alors, on ne sait pas évidemment à quel niveau pour l'instant il a été fait, mais en tout cas, ça reste hyper, hyper appréciable. Quoi.
Vincent, j'ai l'impression que tu as envie de dire quelque chose.
Non, c'est drôle, c'est là que tu vois la différence de génération. Quand tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux sur la prohibition, le premier truc auquel tu m'as fait penser quand tu as parlé de prohibition, c'est Moonwalker, tu vois. Je pense que ça te parle.
Pas du tout.
Il y avait un jeu qui s'appelait Prohibition aussi sur Atari ST.
Ouais, c'était sur Mega Drive à l'époque, et c'était avec Michael Jackson qui était le héros principal du jeu, et ça se passait justement dans les années 20. Mais c'est vrai qu'évidemment, des jeux de l'ampleur de Mafia, on n'avait pas eu avant. C'est une période qui est hyper intéressante, qui a toute une mythologie qui se développe derrière, avec tous les films qui ont forgé un petit peu notre culture populaire aussi, avec évidemment les Scorsese, la série du Parrain, et on retrouve tout ça. Et moi, je me souviens des présentations qu'on avait eues à la Gamescom quand ces jeux allaient sortir. C'était vraiment des trucs sur lesquels le studio misait et mettait en avant. Moi, j'ai passé de bons moments dessus. Je serais curieux de savoir un petit peu au niveau du développement ce que ça leur implique en fait au niveau du travail d'amélioration graphique, parce qu'on voit souvent le boulot d'amateurs qui s'amusent à pimper des jeux. On a vu par exemple, pour rebondir sur GTA, on a vu du GTA en ray tracing. C'est absolument fabuleux. Alors après, faut voir sur quelle machine ça tourne, évidemment.
Le mode Natural Vision par exemple qui est sorti il y a quelques jours, qui a été refait. Et qui a un rendu, mais complètement dingue.
Ça a tombé, quoi. Hein. Donc, est-ce que. Moi, c'est l'investissement, en fait. Ça m'intéresserait assez de discuter avec les développeurs pour voir l'investissement qui est nécessaire pour justement remettre le Mafia 1 au niveau de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, quoi.
L'affiche de Microsoft Store, avant que ça disparaisse, et on aurait vraiment dû la capturer, expliquait que le jeu avait été refait de zéro. Donc, hypothèse, moteur de Mafia 3. Et puis on remet les assets, enfin on essaie de transposer les assets du premier dans le moteur de Mafia 3. C'est comme ça que je le vois, parce que je vois mal Hangar 13 faire autrement.
Ils ont peut-être tout à fait un peu sur l'histoire aussi. Il y a peut-être des surprises au niveau de l'histoire qui est un peu poil différente. Je sais pas s'ils l'ont reprise de A à Z en fait. C'est pas forcément dit, hein. Parce que
Les premiers screens qu'on a vus, c'est quand même des moments du jeu qu'on arrive à reconnaître. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des comparaisons, notamment la fusillade dans le bar, où ça n'a pas du tout le même rendu d'ailleurs en 2002, et normal. Donc, mon avis, il n'y aura pas beaucoup de changements. Il ne faut pas s'y attendre vraiment, vraiment. Mais après, on peut toujours trouver des trucs à collectionner en plus, des clins d'œil supplémentaires. Au 2, parce que le 3 serait compliqué, mais au 2, parce que le 2 et le 1 sont bien connectés.
Ah, mais tu sais qu'ils ont réussi à mettre des clins d'œil du 3 dans le 2, enfin, je l'expliquerai plus tard, mais donc c'est pas, ils peuvent très bien aussi mettre des clins d'œil aux autres épisodes dans le premier.
Ça doit les faire kiffer, je pense, d'arriver à donner une unité comme ça à une œuvre qui s'est étalée sur plusieurs épisodes et où ils s'amusent à renvoyer la balle, à faire des choses comme ça. On a vu la même chose peut-être avec Yakuza, qui était sorti un petit peu avant, et on a ce même effet de série là qui te permet d'avoir quelque chose et puis de prendre aussi. Moi, j'aime bien ça me fait assez kiffer aussi de pouvoir m'acheter une série avec plusieurs épisodes et de pouvoir me les faire dans la foulée pour rester dans l'ambiance, et puis rester, garder le fil rouge, garder le fil conducteur, un petit peu rester dans l'univers et puis avoir le contact entre les personnages et arriver à lier tout ça, quoi. C'est toujours hyper sympa de pouvoir revenir dessus en dehors de l'aspect mercantile, évidemment, qui est d'exploiter quelque chose qui va forcément fonctionner parce que ça marche sur un terreau qui est déjà très fertile. Mais nous, au niveau joueur, si on prend le côté positif de la chose, c'est vraiment aussi de pouvoir s'approprier un univers d'un seul tenant, d'un seul plan, alors que avant ça, on pouvait être saucissonné quand on joue pas les épisodes les uns après les autres et dans la même période, en tout cas.
Bon, en tout cas, on reparlera de Mafia 2 Definitive Edition tout à l'heure, parce que, comme je vous le disais, Camille, lui, a eu la chance d'y jouer et il va nous en parler un peu plus. Troisième annonce de la semaine, on reste dans les jeux hein, pour l'instant, évidemment, c'est Paper Mario The Origami King. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça sort d'abord ? On n'en avait jamais entendu parler avant la semaine dernière. Je suis pas fou, Thomas.
Il y avait eu quelques rumeurs qui couraient avant son annonce. Ça rentrait éventuellement dans le cadre des grandes célébrations visant à fêter les 35 ans de Super Mario Bros. Mais voilà, c'était simplement des rumeurs. Et jeudi, comme ça, sans prévenir, Nintendo a balancé une vidéo d'annonce du nouveau Paper Mario, donc The Origami King, je vais y arriver, qui continue la série qu'on avait perdue sur Wii U avec un épisode Color Splash qui m'avait particulièrement plu à Traz aussi, mais c'était pas le cas forcément de tout le monde. La série avait un peu du mal à se remettre du succès de l'épisode GameCube qui avait été tonitruant. Et là, alors que tout le monde se demandait à quoi on allait éventuellement pouvoir jouer cet été sur Switch, et bah boum, Nintendo annonce un nouveau Paper Mario comme ça, sans prévenir, qui va donc sortir le 17 juillet. Donc d'ici trois petits mois, on pourra y jouer. Et on a pu découvrir l'ambiance forcément origamesque de cet épisode, où une fois de plus, Peach va être kidnappé, non pas par Bowser, mais par un nouveau méchant qui s'appelle Oli. Et Mario va du coup partir à l'aventure avec un nouveau compagnon, en l'occurrence une compagnon, qui elle aussi, sous la forme d'un origami, va l'aider à défaire son frère, puisque c'est lui le grand méchant du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu découvrir de toutes nouvelles mécaniques pour le système de combat. Les joueurs qui connaissent bien la série savent qu'on ne s'ennuie jamais pendant les phases de combat dans un Paper Mario, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. En plus de rentrer des commandes, on peut maximiser ses dégâts ou justement en prendre un petit peu moins si on la joue défensive. Et là, on a vu qu'il y avait un système de roues où il allait falloir d'abord aligner ses ennemis avant de commencer à les attaquer si on veut vraiment faire du dégât et terminer les combats de la façon la plus rapide possible. Et ça s'annonce plutôt intéressant. Je sais que les lecteurs ont été très réceptifs à l'annonce de ce nouvel épisode. Donc, ça promet a priori une belle aventure en espérant qu'on se débarrasse des mécaniques pas forcément les plus sympas de Sticker Star et de Color Splash qui voulaient qu'on utilise et qu'on crame continuellement des cartes dans les combats pour pouvoir attaquer les ennemis ou justement se défendre. Pour ça, on n'en sait pas encore grand-chose. Il faudra évidemment attendre la sortie du titre, donc le 17 juillet prochain.
Très bien, qui sortira le même temps qu'un autre jeu dont on va parler juste après. Pour finir cette pluie d'actu, on va finalement parler de Sony beaucoup. Sony à qui on reproche d'être un peu muet, d'être un peu silencieux concernant la PS5, finalement, il se passe des choses autour de cette console. La première, c'est la démonstration, enfin, de quelque chose qui tourne sur PS5. Alors, c'est pas vraiment un jeu. On n'attendait pas, on espérait avoir un jeu, mais finalement, c'est une démo technique de l'Unreal Engine 5 qui s'est montrée pour la première fois sur PS5. Unreal Engine 5 qui évidemment sera compatible avec tous les supports actuels, modernes, plus ou moins, parce que la Switch n'est toujours pas considérée dans le lot, et Tim Sweeney a confirmé que le Commodore 64 non plus ne serait pas compatible avec l'Unreal Engine 5. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est si pour vous, vous trouvez que c'est vraiment un coup de la part de Sony d'avoir réussi avec Epic à faire placer le mot PS5 dans cette démo en particulier, qui pourtant peut tourner sur n'importe quoi. Enfin, je veux dire qu'il peut tourner sur Xbox, qui pourrait tourner sur Xbox Series X aussi, qui pourrait tourner sur un gros PC sans aucun problème. Mais là, l'idée de la présentation qui a fuité quelques secondes avant que Geoff Keighley puisse la montrer dans le Summer Game Fest, c'est que, oui, voilà, est-ce que vous pensez, vous, dans votre esprit, est-ce que ça s'est ancré directement la PS5, c'est ça, par exemple?
C'était surtout un moteur, en fait. Les faits ont validé la stratégie de Sony, puisqu'il a fallu que des représentants de la branche Xbox chez Microsoft rappellent que oui, l'Unreal Engine 5 tournera aussi sur Xbox Series X, il n'y a pas de problème, etc. Et de base, on se dit, mais personne n'en doute. C'est un moteur, c'est la suite du moteur le plus utilisé par l'industrie. On imagine mal une exclusivité constructeur, même une exclusivité temporaire. Donc c'est forcément un bon coup marketing de la part de Sony, puisque on voit que les gens ont d'abord retenu que c'est la PS5 qui allait proposer le nouveau moteur d'Epic. Et il a fallu derrière ramer pour rappeler qu'effectivement les autres consoles du marché allaient l'utiliser. Quand on est obligé de dire moi aussi, c'est que a priori on est peut-être passé à côté d'un petit effet d'annonce.
Et la démo en elle-même, vous en avez pensé quoi?
Moi j'ai trouvé ça assez bluffant, surtout le système de Lumens qu'ils ont. Bon, Lumens, c'est le système d'éclairage qui est présent dedans. Alors ils ont bien expliqué qu'il n'y avait pas de ray tracing dans la démo, donc justement il faut bien séparer les deux, et c'est vrai que c'est assez bluffant quand on a des lumières volumétriques qui sont somptueuses. On a aussi les effets de texture, alors là on n'est plus dans le lumens, on a les effets de texture sur la roche, etc., qui sont assez belles.
Les effets, effets de nanite, voilà, ils ont appelé ça nanite.
Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'ils ont précisé que la démo tournait dans de bonnes conditions avec un PC équipé d'une 2070 super. Donc voilà, ça pour remettre un peu sur le hardware. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant à bien des niveaux quoi. Franchement, si alors il faut encore mettre un 6, c'est qu'en fait ils ont déjà présenté une démo, la démo de l'Unreal 4 il y a plusieurs années. Elle était somptueuse et on n'a jamais vu aucun jeu tourner avec une telle qualité graphique. Donc il faut vraiment faire attention dans les démos de ce type, même s'il y a marqué que ça tourne sur PS5. Il faut savoir que c'est une démo qui elle est courte, qui elle est optimisée pour avoir ce rendu là. Après, est-ce qu'un jeu complet pourra faire tourner ça, il faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'il peut y avoir des déceptions par la suite. Si tout de suite les gens se disent ah ouais super, tous les jeux PS5 vont ressembler à ça, ils risquent d'avoir une déception clairement. Donc il faut mesurer les sensations. C'est vrai que c'est très beau, c'est sûr qu'il y a des jeux qui vont atteindre ce palier là mais après il n'y aura pas tous les jeux, il n'y aura pas forcément ça passera pas pareil à ce niveau là même les gros jeux, donc il faut vraiment faire attention et être mesuré là-dessus quoi.
Ouais, moi je rejoins Camille sur cet avis là et souvenez-vous de la Raymanta et du dinosaure il y a longtemps, on les a jamais vus dans un jeu avec cette qualité là et alors je suis peut-être faire le cœur de service hein, mais moi c'est le genre de truc qui me laisse totalement de marbre, parce que justement tout de suite j'ai la Raymanta et le dinosaure qui me reviennent devant. C'est vrai que c'est très bien d'avoir des jeux qui sont capables de faire des supers effets. Ce sera encore mieux de voir comment ils vont l'exploiter de façon correcte. Et ils le font déjà aujourd'hui. On parle d'effets volumétriques. Il y en a un qui nous a tous coaché, qui nous a fait tomber la mâchoire, c'est Flight Simulator. Un effet volumétrique, c'est intéressant quand ça a une application concrète et réelle. En l'occurrence là, dans un simulateur de vol, pour rentrer dans les nuages et en avoir les effets physiques. Et puis arriver à lire le ciel et à voir ce qui se passe. Donc ça, ce sera vraiment intéressant quand ils nous sortiront des trucs comme ça. Ils ont réussi un coup marketing parce qu'ils ont fait parler d'eux, et effectivement je pense que pour un certain nombre de personnes c'est rentré dans la tête que la PS5 c'est ça ou ça va être ça. Que ce soit ça ou pas, ils ont réussi à le faire rentrer dans la tête des gens, et ça va les aider forcément à pencher du côté de Sony le jour où ils vont faire un achat. Ils se souviendront du truc, les images de la grotte, la poussière qui volait, les petits insectes qui se baladaient un petit peu partout, c'était démentiel, ils s'attendront à voir ça. Ils l'oublieront peut-être après, ou alors ils s'en rendront vraiment compte s'ils essaient de comparer, mais en tout cas ça va rester ancré un petit peu dans l'imaginaire des gens. Les joueurs qui ont un petit peu l'habitude, ils savent qu'il faut se méfier un peu de ce genre de choses, et je rejoins totalement Camille là-dessus, il faut vraiment voir ce que les gens vont en faire, hein. C'est l'adage classique, hein, sans maîtrise la puissance n'est rien, et tout ça et tout ça. Et puis en plus, si comme Camille on a un PC, on sait très bien que quand la PS5 sortira, il y a une autre carte graphique qui va sortir, et on va avoir des trucs qui vont encore plus nous scotcher sur cette éternelle course à l'échalote des effets graphiques et de lumière et physique, etc.
Ouais, et j'en profite pour préciser juste un truc, parce que tu parlais justement de l'utilisation de tout ça, qui est une utilisation réelle, concrète dans un jeu, que c'est une influence notamment sur les mécaniques, par exemple. On sait que l'Unreal, il y a une démo qui a été assez bluffante, qui est sortie il y a finalement quelques mois, c'est en début d'année. C'est sur le système de physique qui va être ajouté. J'ai pu retrouver une news sur Gameblog qui a été publiée il y a 2 semaines, où justement il parle de ça. Et je m'étonne qu'ils aient pas présenté plus en détail dans la démo ce système de physique qui était impressionnant et qui, pour le coup, aurait vraiment une importance dans le gameplay, quoi, puisque pour le coup, si tu as vraiment un système de physique réaliste avec une réaction avec les divers éléments, là tu peux t'imaginer tout un tas de mécaniques qui peuvent agir en même temps, je sais pas, une destruction de décor dans un jeu de guerre, etc. Enfin, pour le coup, ça a vraiment une vraie expérience immersive, quoi. Donc je m'étonne un peu qu'ils aient pas présenté ça alors que ils en ont parlé encore il y a quelques semaines.
C'est histoire de dire l'Unreal Engine 5 existe, il arrive en 2021 et ça va ressembler à ça. Après, tout ce qui est physique, c'est des choses qui sont peut-être pas aussi évidentes à faire comprendre au grand public, j'imagine en tout cas, que essayer de leur expliquer des choses comme ça, alors que quand là tu peux leur en foutre plein les yeux dès le départ.
Il y avait une vidéo, Franck, qui était bluffante. Tu sais, c'est la fameuse vidéo où tu as un robot géant dans une ville qui se bat contre un autre robot géant et tu as des morceaux de building qui tombent. Pour le coup, je trouvais ça assez. Tu voyais vraiment où est-ce qu'ils voulaient en venir, quoi. Tu voyais vraiment la qualité graphique. C'est la première fois qu'il y avait autant de débris en même temps, une gestion aléatoire des débris pour que ça soit finalement réel. Que ce ne soit pas juste des morceaux géométriques qui tombent sans aucun sens, mais que les morceaux tombent et une fois qu'ils tombent, ils peuvent s'effriter une fois au sol. Il y a vraiment ce côté un peu des fluides aussi, une gestion des fluides qui était aussi intéressante. J'aurais pensé qu'ils auraient pu montrer ça aussi dans cette démo, ça aurait pu être le moment de le faire, mais bon.
Ça viendra, tu sais, les démonstrations à la Battlefield, alors je sais plus si c'était le 2 ou le 3, ou le 4, dans lequel ils avaient fait les premières démonstrations d'un lance-roquette qui allait s'abattre sur un immeuble, et suivant l'endroit où tu tirais, la déflagration était totalement différente.
Ah, c'est dans le 3, ça.
C'est dans le 3, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ça, tu vois, ce genre de choses, on a le temps de les voir, hein. Franchement, je pense qu'on a le temps de les voir. Thomas.
Oui, bien sûr.
Moi, je m'étais juste posé une question parce qu'il y a eu ce côté où on s'est attardé sur la définition des pierres, des petits bouts de roche qu'il y avait dans la paroi. Regardez les milliards de triangles qui les composent, etc. Et moi, je me suis demandé, dans combien de jeux est-ce qu'on prend véritablement le temps de s'arrêter, d'observer le level design et de rentrer à tel point dans les détails ? Il n'y en a vraiment pas beaucoup parce qu'il faut déjà un super level design et la technique en soi n'accouche pas, ne te permet pas forcément d'accoucher de quelque chose de très pertinent devant lequel tous les joueurs vont s'arrêter. Il y a des jeux, évidemment, je pense à God of War, je pense à Red Dead Redemption 2, qui proposent quelque chose de visuellement très intéressant où tu as envie de rentrer véritablement dans les détails, mais pour la plupart des jeux, tu passes, tu traces, et en fait, tu t'es pas véritablement arrêté sur ce qui compose ton environnement. Donc voilà, sans vouloir faire le chieur pour reprendre les mots de Dopa, la technique non plus ne fait pas tout, et c'est pas parce que les chiffres sont plus gros que forcément ça va être plus intéressant et plus sympathique à jouer.
Non, mais après, comme le signale Epic, la probabilité que les artistes aient beaucoup moins à se concentrer sur la partie technique, justement, et que leur travail soit retranscrit beaucoup plus rapidement, soit facilité, exactement, ça c'est une chose qu'on peut pas nier non plus.
C'est certain, il va y avoir moins de downgrade sur les polygones qui vont pouvoir intégrer la version finale du jeu. Ça, effectivement, si ça permet de gagner du temps aux artistes et aux designers, c'est une très bonne chose, qui pourront se concentrer sur autre chose.
Et surtout qu'ils ont expliqué avoir fait du scan de textures dans le monde réel, à plusieurs endroits de la Terre, des temples mayas, des morceaux de feuillage, etc. Justement pour alléger le travail des développeurs, si je suis... Voilà. On prend vraiment des morceaux de texture, mais vraiment plein de choix, plein de panels, etc., pour justement aider au développement. Quoi.
Bon, bref, ça sera très intéressant de voir comment on va se développer tout ça quand ça va arriver sur Xbox Series X et PS5, mais aussi, comme vous le savez, sur PS4, sur Xbox One, sur iOS, sur Android, et pas sur Nintendo Switch. Bon, ça c'est un autre débat, on y reviendra.
Et sur PC.
Ah, j'ai oublié le PC. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, j'ai oublié le PC. Ah, c'est vrai, c'est parce que je n'ai peut-être pas encore la bonne carte graphique, c'est pour ça, du coup, j'oublie que si je pourrais en profiter. La deuxième annonce de la semaine dernière côté Sony, toujours côté PS5, peut-être plus discrète, mais importante aussi par rapport à l'image que peuvent avoir les joueurs des jeux Sony. C'est la réunion sous une seule appellation des jeux first party PS5 à partir du lancement de la PS5 sous l'appellation PlayStation Studios. Donc, un peu comme Xbox avec son Xbox Game Studio qui regroupe une quinzaine de structures qui ont chacun leur jeu et ça permet, on va dire, d'apposer un espèce de saut de qualité et de dire « Ah, ça, c'est les jeux qui sont développés chez nous, c'est mieux. » Bah, Sony fait la même chose. Alors, est-ce que c'est le genre de chose qui est vraiment important en ce moment ? Ça, je ne sais pas. À vous de me dire.
Bah, tu tends la perche pour que la réponse soit plutôt non, en fait. En soi, c'est une bonne chose. Le fait que ce soit plus lisible pour les joueurs, que tu retrouves plus régulièrement, du coup, cette intro au début des jeux, ça va effectivement sans doute ancrer dans la tête des gens qu'il y a une certaine régularité et surtout un niveau de finition qu'on attend de la part des jeux Sony qui sont, admettons-le quand même, sacrément bien finis quand ils sortent. En soi, l'annonce, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais de voir les réactions complètement démesurées des gens sur Internet qui se sont paluchés pour un petit bout d'introduction vidéo, je me suis demandé à quel point on n'avait rien à faire et rien à dire pour qu'un non-sujet comme celui-là enflamme Internet, parce qu'au bout du bout, c'est trois fois rien, c'est un logo et une animation vidéo pour les jeux first party de Sony. C'est très bien, mais voilà, une fois qu'on a dit que c'était très bien, c'est pas la peine d'aller plus loin, finalement.
Bon, on n'est pas obligé non plus d'aller dans l'extrême opposé, c'est-à-dire aller
ça n'engage que moi.
Que c'est pas très original la façon dont c'est mis en scène, puisque ça ressemble énormément à ce qui est développé pour le Marvel Cinematic Universe en tout début de film. On a quasiment les mêmes choses, les lettres de Marvel qui commence à se former avec les reflets de chacun des héros sur les lettres. On a la même chose du côté Xbox Game Studio, qui a pareil un Master Chief qui apparaît sur une lettre ou deux, et à la fin ça forme le Xbox Game Studio. Donc on n'est pas obligé d'être dans les extrêmes dans les deux cas de toute façon. C'est juste un moyen de rappeler que les jeux Sony, développé par Sony, parmi lesquels on va retrouver probablement du God of War, du Horizon, du Spider-Man et autres, ça va être totalement charté, on saura lesquels c'est, et du coup pour le consommateur ce sera plus simple de s'orienter en prenant en compte évidemment que pour le consommateur ça voudra dire automatiquement c'est un bon jeu, ce qui n'est pas forcément le cas, on est d'accord.
C'est rien, mais
c'est Knack 3.
Il y a ça. Ah putain, oui, Knack. Oh non, ils ont pas dit. Oh, c'est vrai.
C'est rien,
mais c'est. Il y a pas de texte dans le truc.
C'est rien, mais c'est tout, parce que souvent, c'est des trucs qui nous restent ancrés en mémoire. Tous les logos de lancement des consoles qu'on s'est remémoré avec certaines vidéos, tous ces trucs-là. Moi, je me souviens qu'à une certaine époque, quand je voyais un jeu estampillé Codemaster, je me disais ça doit être un bon jeu. Quand on voit Polyphonie Digitale, on sait qu'on va avoir le maître étalon pour les jeux de bagnole sur une console PlayStation. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pas la peine d'en faire une montagne. Mais ça va avoir, ce petit pas grand-chose va quand même avoir une grande importance dans nos inconscients. Et quand on y repensera après, on se dira « Ah, le logo, on va l'oublier d'ailleurs ce logo, qu'on va lancer les jeux, parce qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, on aura ce truc redondant. » Mais il va quand même s'imprimer en nous, et quand on aura un autre jeu, ça paraîtra peut-être, il manquera peut-être quelque chose. On se dira « Tiens, ça c'est pas un studio first party. » On n'aura pas cette habitude qu'on aura pris d'identifier les jeux comme ça. Et je pense que dans quelques années, si les jeux effectivement restent bons, parce que je pense qu'on va retrouver du Polyphonie, du Naughty Dog ou des trucs comme ça derrière, si on fait ces associations-là, forcément, elles vont rester comme des petits mèmes, et puis on va se les approprier comme ça. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pas la peine, effectivement, d'en faire un fromage. Mais ça va s'ancrer dans nos vies de joueurs pour les années qui viennent, ça, c'est sûr.
Après, c'est toujours ça pour la PS5. Hein, comme on est tous en train d'attendre comme des affamés, qu'ils nous montrent plus qu'une manette, ou bah si, au moins pour le boulot.
J'ai tellement de trucs à jouer.
Oui, mais,
non, ben voilà, on est d'accord.
Gars, pour le boulot, au moins pour le taf. Mince.
Je viens de trouver mon jeu de l'année, alors c'est bon, moi, je suis tranquille, je suis refait là, c'est bon.
Ouais, mais spoil pas, mais au moins pour notre environnement de travail, nous devons savoir à quoi ressemble la console, en plus de la manette. On doit aussi connaître sa date de sortie et son prix, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, mais tu ne me laisses pas le choix, en fait.
Non.
Voilà.
Bah non, désolé Thomas, c'est comme ça. En clou du spectacle de la semaine, donc, c'était la démonstration longue, 18 minutes tout de même, de Ghost of Tsushima, donc, qui depuis plusieurs années nous fait un peu rêver, même si on n'en a pas vu grand chose, parce que au niveau gameplay, c'était pas la folie. Quand je dis la folie, c'était pas la corne d'abondance qui balance du gameplay chaque semaine comme le peuvent le faire d'autres éditeurs. Là, on a quand même eu droit à 18 minutes qui étaient bien solides, bien dodues, j'ajouterais, et qui ont permis d'en apprendre un peu plus, mine de rien, sur le jeu qui, pour schématiser, ressemble beaucoup à Assassin's Creed Japan. Est-ce que je me trompe ?
Je sais pas si c'est très gentil.
Non, je l'aurais pu l'appeler Horizon Zero Dawn Japan aussi.
C'est déjà un peu plus flatteur. En tout cas, ça nous a permis.
Pas dans ma bouche, je le dis.
Bon, bah d'accord. Les lecteurs corrigeront eux-mêmes.
On a considéré Horizon Zero Dawn comme le meilleur jeu d'Ubisoft de ces dernières années. Mais bon.
Ça décoche des flèches. C'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs faire aussi dans Ghost of Tsushima. Non, mais c'est vrai qu'il nous tardait quand même de découvrir une véritable séquence de gameplay qui sorte des scènes cinématiques un petit peu drivées, des rares scènes cinématiques qu'on avait pu voir depuis l'annonce du jeu à l'E3 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes idées. Le jeu a commencé d'ailleurs par dévoiler une feature toute bête, mais qui, pour moi, témoigne d'un peu de réflexion et d'intelligence dans le design, c'est la disparition du marqueur de quête, qui, en l'occurrence, ne s'affiche pas sur la carte, mais c'est le vent, en fait, qui va vous suggérer la direction à prendre. Donc, quelque chose de très immersif, un HUD aussi allégé, du coup, puisque vous n'avez pas une icône comme ça qui fait un petit peu tâche et... Ça prend tout son sens avec le mode photo qui a également été dévoilé par Sucker Punch. Ça, pour moi, c'est une idée très intelligente. C'est quelque chose qui apporte un petit supplément. Après, en termes de véritable mécanique, on a vu un jeu d'action slash infiltration, puisqu'on a pu découvrir que c'était un petit peu les deux dimensions qu'allait pouvoir offrir Ghost of Tsushima, ou une approche véritablement frontale, où là, on va avoir des duels au katana qui vont nécessiter d'avoir un bon sens du timing, puisque l'idée, ça va être de parer et d'esquiver un petit peu au dernier moment pour ensuite asséner un coup, a priori, assez destructeur. De ce qu'on a pu voir, évidemment, il faudra le prendre en main pour constater si, dans la version finale, c'est aussi jouable, mais on avait l'impression d'un jeu avec des coups qui ont quand même un petit impact et qui vont rapidement découper vos adversaires comme un véritable katana. Et une autre approche plus furtive, c'est sans doute ça qui t'a lancé dans un comparatif avec la série d'Ubisoft, où là, il va falloir infiltrer des bases ennemies, détourner leur attention pour ensuite aller brûler un objectif. En l'occurrence, là, c'était la cargaison d'un bateau. Bref, des choses qu'on connaît quand même plutôt pas mal, des choses qui sont assez classiques du jeu d'action-aventure de ce genre-là, mais avec, a priori, ce qui a retenu l'attention des joueurs, vraiment cette thématique très japonaise qui met dans l'ambiance, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut en retirer.
Oui, ça, l'ambiance, c'est sûr, elle a l'air d'avoir conquis à peu près tout le monde. Toi compris, Vincent ?
Oui, exactement. C'est, je crois que sur le fond, on va être sur quelque chose de plutôt classique, et c'est vraiment l'enrobage. Tu sais que tu vas aller voir un film d'action, ou tu sais que tu vas aller voir un film à l'eau de rose, tu ne seras pas surpris par le thème. Par contre, c'est l'ambiance et la façon dont il est réalisé qui vont nous séduire. Là, je suis en train de regarder les images au moment où on en discute. Moi, je suis encore jamais malheureusement allé au Japon. J'ai très envie d'y aller avec Ghost of Tsushima, quoi. C'est tout ce qu'on a dans l'imaginaire médiéval japonais, enfin dans l'imaginaire, dans la réalité a priori, mais dans notre imaginaire à nous, dans le mien en tout cas. Et j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans, quoi. C'est un univers qui a l'air bien fini. Le fait que tu aies cette histoire de vent aussi, ça te ramène quelque chose d'impalpable à la fois et qui te met dans l'ambiance. C'est-à-dire, t'as des jeux comme ça avec une palette de couleurs, avec quelques petits effets, avec cette histoire d'inclure en fait dans le gameplay des éléments qui sont naturels finalement pour te guider quelque part plutôt que de foutre une flèche et dire c'est là à 500 mètres. Je trouve que c'est des choses qui sont assez intelligentes. Le fait d'utiliser la fumée par exemple pour quelqu'un qui a besoin d'aide et pas juste tout à coup une icône qui s'affiche sur ta carte, c'est des choses contextualisées qui aident à avoir envie de se plonger dans cette ambiance-là. Je pense que c'est vraiment le thème, le sujet médiéval qui va nous amener là-dedans, comme dans d'autres jeux un petit peu comme ça en open world, où on pouvait plutôt apprécier être dans un thème préhistorique, etc., mais qui restait très conventionnel dans leur façon de présenter les choses et dans le style de jeu un petit peu bac à sable, où on va faire plein de trucs dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui plaît très souvent dans ce genre de jeu-là, c'est de contextualiser les choses et d'arriver à faire en sorte que tous ces éléments-là, qui sont des éléments de gameplay tout à fait classiques, fassent sens dans le tout de Ghost of Tsushima. Ça, je l'attends, je pense que j'essaierai d'y jouer si j'en ai le temps, et ça plaît vraiment. Les effets, je trouve, de fumée, etc., et de lumière sont vraiment très bien rendus. T'as l'impression qu'il fait chaud, t'as l'impression que c'est le matin, le soir, ou que c'est très humide dans l'air, et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, d'avoir des ambiances comme ça, et de ressentir ces ambiances-là dans les jeux.
Très bien, et ce petit filtre. Alors moi, c'est peut-être le truc que je trouve le plus convaincant de mon côté, mais ce petit filtre Akira Kurosawa, un peu filtre noir et blanc, un peu granuleux, pour avoir une sorte de
grain.
D'effet, ouais, voilà, d'effet de film de samouraï des années 50, je dirais. C'est ça, ouais, années 50 à peu près. C'est quelque chose d'assez fabuleux aussi d'avoir fini là-dessus et de l'avoir intégré d'ailleurs.
Bah, ça répond au code de la mythologie que nous on se fait aussi de cet univers-là et finir aussi sur enfin tu vois les paysages qui sont grandioses. C'est alors peut-être que les gens qui sont plus habitués que moi à toute cette mythologie-là, qui connaissent mieux cet univers-là, vont trouver que c'est du poncif et que on tombe dans des trucs caricaturaux. Mais moi en tout cas, ça me parle parce que dans la culture que moi j'en ai, ça résonne avec des choses qui sont déjà faites. Le filtre, comme tu le dis là, est quelque chose qui nous ramène encore une fois à ça. Et je trouve que c'est bien trouvé. C'est pas la seule chose qu'on va avoir dessus en référencé, en tout cas à la culture qui s'est développée autour de cet univers là.
Très bien. Donc Ghost of Tsushima qui arrive le 17 juillet, comme un certain Paper Mario The Origami King.
Droite en frontale.
Exactement, un peu comme Doom et Animal Crossing. Donc là, je sais pas comment les fans vont imaginer le mariage entre Ghost of Tsushima et Paper Mario, mais il y a peut-être des choses.
Bah, l'origami, on est déjà sur une thématique assez japonisante, hein, finalement.
C'est vrai, tu as raison.
Le pont se dresse tout seul.
Eh bien, maintenant, on va dresser un pont vers le thème numéro 2, mon cher Thomas. Tu le sais. Puisque nous allons parler du test de Mafia 2 Definitive Edition. Bah oui, Camille. Tu l'as testé, tu as pu y jouer un peu quand même pour voir ce que ça donnait. Alors, on va rappeler que Mafia 2 est sorti il y a quelques années maintenant déjà. C'est un jeu de la génération PS3 Xbox 360 dans lequel on incarnait un certain Vito Scaletta qui lui-même se retrouvera par la suite dans Mafia 3 dans d'autres...
Exactement.
Oh là, j'ai eu un gros bug de son de ton côté, Camille. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah voilà, c'est mieux.
Ouais. Non, je ne sais pas, j'ai rien touché pourtant. Mais...
Non, ça va juste faire défoncer, t'inquiète pas.
Ouais. Alors Camille, tu disais, il est sorti il y a 10 ans.
Ouais, exactement. Donc Mafia 2 est sorti il y a 10 ans. Donc forcément, si on se replonge dans le jeu d'origine, le gap graphique, on le voit par rapport à la modernité. Donc ils ont voulu faire un remaster. On reprécise encore une fois, contrairement à Mafia qui aura le droit à un remake. Là, il s'agit d'un remaster HD uniquement, donc des textures, des effets visuels. Enfin, c'est vraiment un remaster visuel. Ça, c'est tout de suite indiqué dès les premières minutes de jeu. C'est-à-dire que vous avez un fondu au noir et il y a écrit, voilà, le contenu du jeu est identique à ce qu'il était il y a 10 ans. Vous avez uniquement une amélioration graphique. Pour avoir quand même le jeu bien ancré dans mon souvenir, effectivement, c'est quand même extrêmement visible. Je le précise dans mon test. Notamment au niveau des lumières. Tout à l'heure, on parlait de lumière sur Unreal Engine. Alors là, évidemment, ça n'a rien à voir, mais les effets de lumière sont particulièrement bien travaillés. On a des effets volumétriques qui sont très beaux. On a des lumières rasantes qui ont été ajoutées. Et forcément, ça agit aussi sur les ombres. Donc, ça apporte ce côté immersif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on va pénétrer dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment, un immeuble, une maison, peu importe, on va savoir tout de suite de quelle heure de la journée... quelle heure de la journée il est, en fait, selon la lumière. Et rien que pour ça, je trouve déjà qu'il y a un beau travail qui a été fait, puisque évidemment, c'était beaucoup moins le cas. Alors évidemment, avec les technologies de l'époque, il y a 10 ans, ils ont essayé de le faire, mais forcément, ce n'était pas vraiment possible de le faire. Là, c'est possible de le faire, et ça marche, puisque le jeu, pour ceux qui ont joué, vous vous en souvenez sûrement, il y a beaucoup de retours en arrière et de retours en avant. Donc c'est bien de savoir d'avoir une temporalité. La temporalité, elle est bien expliquée par rapport à la lumière, donc ça, je trouve ça assez cool. Il y a aussi un gros effet qui a été fait au niveau des textures, puisque les textures, notamment des visages, sont vraiment très bien réussies, notamment lors des cinématiques. On voit des gros plans sur le visage, sur le personnage principal, où vraiment le grain de peau qui est vraiment très bien transcrit. Et ça fait aussi écho avec les effets d'ombre et de lumière, puisque les effets de lumière vont avoir un effet sur les reflets vont avoir un effet sur la chevelure du personnage principal, puisque on est en plein dans les années 50, donc tous les personnages ont les cheveux gominés, donc on a un peu vraiment cet aspect années 50 qui ressort, qui est vraiment bien trouvé. C'est très agréable à l'œil. Aussi sur la texture des vêtements, il y a un beau travail qui a été fait sur la carrosserie des voitures aussi, évidemment, puisque les voitures, il y a un système de destruction de la carrosserie, un peu moins poussé que celle d'un GTA, on va se l'avouer, mais ça reste quand même très agréable pour l'immersion. On a des belles carrosseries de voitures années 40 pour le début du jeu, puis un peu plus par la suite années 50, au soleil, etc. On a des beaux reflets. Au début, on commence en hiver 45. Donc voilà, on a l'hiver le plus froid depuis nombreuses années. Donc on a la neige qui recouvre la carrosserie de la voiture. Ça a un impact sur la lumière qui transperce le pare-brise, etc. Enfin, on a vraiment un truc qui est finalement assez joli à ce niveau-là. Par contre, je trouve qu'au niveau des textures, c'est assez contrasté. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a des textures de peau qui sont très belles, la carrosserie de voiture, c'est très beau, les vêtements aussi. Mais par exemple, les textures de pierre sont beaucoup moins travaillées, contrairement à celles du bois. Alors, quand on rentre dans un bâtiment, c'est la première chose qu'on voit, des beaux parquets, etc. On sent qu'il y a un travail qui a été fait dessus. Mais pour la pierre, c'est plus contrasté, c'est plus mitigé à certains moments, notamment dans des cinématiques. On voit en arrière-plan un mur et des fois, c'est un peu baveux, c'est un peu flou. Voilà, on se dit qu'il y a un travail qui aurait pu être fait, qui n'a pas été fait, ou alors qui a été oublié, je sais pas. Parce que c'est pas présent à certains. Il y a des moments, les murs de pierre sont très jolis, avec des très belles textures. À d'autres moments, c'est vraiment dégueulasse, donc c'est un peu dommage que ça soit contrasté à ce niveau-là. Et aussi au niveau, alors ça c'est un autre niveau, malheureusement ça n'a pas été travaillé, ce sont les animations. Là on rentre dans une problématique d'un remaster, c'est qu'en fait il n'y a que l'aspect graphique qui est travaillé, et tout le reste, en fait il n'y a que l'enrobage, tout à l'heure Dopa parlait d'enrobage, là il n'y a que l'enrobage qui est changé, et tout le reste, tout le contenu est identique à l'époque. Et du coup, ça donne des rendus visuels qui viennent casser un peu l'immersion, puisqu'on a un personnage qui va avoir des très belles textures sur son skin avec des très belles textures, et qui va se déplacer de manière, alors pas caricaturale, mais très robotique, puisque on est quand même sur un moteur graphique qui est quand même vieux de 10 ans à la base, donc un système d'animation vieux de 10 ans, même plus, puisque si on compte le temps de développement, on peut compter 2 ou 3 ans de plus, donc un moteur d'animation qui est vieux de 13 ans peut-être. Donc forcément, par rapport à 2020, ça peut faire un peu tâche, et du coup on a des personnages qui ont des belles textures, un beau papier cadeau, mais à l'intérieur ils sont bizarres parce qu'ils marchent bizarrement. On sent que c'est dans les animations, quand ils parlent, ils lèvent leur verre, ils sont un peu alors on n'est pas au niveau des jeux PlayStation 1 ou quoi, mais on sent qu'il y a un souci, c'est très robotique, c'est pas naturel du tout, et du coup ça casse vraiment l'immersion quoi. Et comme le jeu est pas spécialement, quand on a joué à un GTA, on voit tout de suite la différence. Hein. Même GTA 3 est sorti, il me semble, je sais plus s'il est sorti un an avant ou un an après. Je crois
GTA 3.
Ou en même temps, je sais plus.
GTA 3. Ah non, le 4.
Mais GTA 4, pardon. Ouais. GTA 4, il me semble qu'il est sorti un an après ce machin. Je sais plus, j'ai plus les dates en tête. Mais en tout cas, on voit vraiment le gap de différence entre les deux, où il y avait un aspect assez naturel dans le déplacement des personnages de GTA 4, alors que c'est pas du tout le cas dans Mafia, et c'était déjà à l'époque, il y avait déjà un manque de nature à l'époque. Donc si tu mets ça à 10 ans, tu lui rajoutes 10 ans de plus, et ben la problématique elle saute vraiment aux yeux, et du coup l'immersion est pas top. En plus à l'époque le jeu n'était pas comment dire très vivant. Quand tu te baladais dans la ville, il y avait certes des endroits où tu avais beaucoup de piétons, etc., mais il n'y avait pas beaucoup de circulation en termes de voitures. Donc, du coup, si tu rajoutes ça, plus le fait que des fois, c'est un peu bancal au niveau des animations, eh bien, tu vois vraiment la vieillesse qui transparaît là-dedans, quoi, même s'il y a un filtre par-dessus. Ouais, c'est un beau lifting. En fait, si tu devais rapporter ça à un être humain, tu as un lifting qui est très bien réussi, mais derrière, les organes, elles ne suivent pas, en fait. Les organes ne suivent pas, et du coup, tu sens qu'il y a un problème, quoi. Tu sens qu'il y a un problème.
Ouais, quand
tu
as les intestins pourris, de toute façon, c'est
ça. C'est ça.
Ah, cette magnifique comparaison.
Et en plus, tu as le côté des voitures, qui était déjà un problème à l'époque. Le mouvement des voitures, l'utilisation des voitures, la physique des voitures, etc., n'était pas forcément folle en 2010. Forcément, elle l'est beaucoup moins en 2020, quand tu as connu des jeux en monde ouvert qui sont quand même beaucoup mieux faits. On a GTA 5 il y a quand même quelques années maintenant, mais quand même qui a un gap vraiment exceptionnel par rapport à ça. Donc on peut saluer vraiment le travail, on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait au niveau visuel qui est intéressant, mais malheureusement tout le reste est tellement ancré dans une époque qu'en fait il est très difficile d'avoir un jeu ancré dans la modernité. On sent qu'ils ont voulu ancrer le jeu dans la modernité, mais il a un peu, pour parler de manière barbare, il a vraiment le cul entre deux chaises, quoi. On sait pas où veut s'asseoir le jeu, en fait. Il est en 2010 et en même temps il est en 2020. Donc on ne sait pas trop. Voilà, il est en 2015, quoi. Il est en 2015. Et même là, encore au niveau des animations, voilà, en 2015, on faisait déjà mieux que ça. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est très contrasté. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas voulu cacher à noter le jeu. On a discuté en interne avec Traz, avec Plume, etc. pour savoir comment pouvoir noter le jeu, que c'est très difficile. Donc au final, on lui a mis la note de 6 sur 10. Voilà, c'est satisfaisant parce que voilà, c'est nostalgique. T'as le côté, voilà, tu reprends cette aventure, tu plonges dans les années 50, t'es content de retrouver un jeu que t'avais apprécié à l'époque. Tu sens qu'il y a un travail qui a été fait, voilà. Ils sont pas fait un travail fainéant parce que c'est quand même bien fait. Mais voilà, c'est quand même problématique pour l'immersion avec tout ce que j'ai cité. Donc voilà, il y a des petits problèmes comme ça qui sautent aux yeux et c'est dommage. Donc on espère que du coup Mafia, qui lui est un remake, aura une vision différente, enfin que le studio aura une vision différente par rapport à son jeu et du coup le jeu sera plus ancré dans la modernité que ce Mafia 2 Definitive Edition.
C'est un peu comme si c'était une belle blonde ou un beau mec musclé et il faut surtout pas qu'ils ouvrent la bouche par contre.
Voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça.
On donne des citations pour la jaquette là pour se servir. Le jeu avec les intestins pourris, enfin
ouais. Ouais, exactement. Bon, ouais, un bon jeu d'ambiance qui a été refait correctement mais qui aurait pu faire encore mieux. Bon après, ouais. Ils ont pas menti hein, quand on a lu l'affiche, c'était bien écrit que c'était simplement un remaster. Donc,
ouais,
donc voilà, pour ceux qui... Oui.
Juste une dernière chose pour préciser, je le précise dans la conclusion du test, c'est un jeu qui s'adresse, je pense, avant tout aux gens qui connaissent déjà le jeu de base, en fait, pour se replonger, parce que 10 ans, mine de rien, c'est pas rien, donc les souvenirs sont pas spécialement frais dans notre mémoire, donc c'est une bonne occasion de redécouvrir le jeu, de se mettre une dose de nostalgie, et par contre, pour les gens qui n'auraient pas joué du tout au jeu, qui connaissent pas Mafia, je vous conseille pas vraiment de se plonger dedans parce qu'ils vont être beaucoup déçus. Ils auront peut-être entendu des trucs. Ah ouais, tu verras, c'est super et tout. Parce que leurs potes, tu aurais joué à l'époque. Ils ont des bons souvenirs. Et du coup, c'est des souvenirs un peu qui sont un peu, voilà, qui auraient changé. Et je pense pas que ce soit une bonne idée de découvrir Mafia avec ça. Si vous voulez découvrir Mafia, attendez finalement le remake de Mafia 1. Je pense en tout cas que ça sera mieux pour vous, quoi.
Ouais. Et puis, pour ceux qui n'avaient déjà pas aimé Mafia 2 à l'époque, n'en parlons pas.
Voilà, oui, forcément.
Et ils ont été quelques-uns. Voilà. Fumble, si tu le regardes. Ben voilà. Bon, ben on va passer au... Merci Camille. On va passer au troisième thème de cette semaine. Là, on va aller à toute vitesse. On va aller dans un domaine que Dopa connaît très bien, je crois. J'en suis même à peu près certain. On va parler un peu de bagnole. Alors, c'est dommage que Traz ne soit pas là. Hein. Il ne veut absolument pas participer au podcast en ce moment. Ah, j'ai trop de barbe, j'ai trop de cheveux, etc. Donc, c'est dommage parce que lui, il aurait peut-être eu... il aurait pu s'accrocher un peu avec toi sur ce thème de la F1, sachant que c'est un truc qui, personnellement, ne m'intéresse absolument pas. Et que Traz me rabâche à longueur de journée. Ah oui, mais machin, c'est un génie. Ah, mais le t'enculé. Ah, Ferrari, les voleurs, machin. Mais ok, Traz, je connais rien. Bref, F1 2020, donc, qui est logiquement la suite de F1 2019, qui a été et qui est encore à l'heure actuelle, si je ne m'abuse, le meilleur jeu de F1, au moins console existant.
En même temps, il n'y a pas beaucoup de concurrence hein, sur le créneau de la F1.
Exact. Donc. Raison de plus pour qu'il soit encore mieux. Est-ce que tu as pu, donc, après l'avoir essayé, ressentir une véritable amélioration par rapport à la saison précédente, sachant que pour l'instant, ce qui avait été annoncé, c'était essentiellement des modes supplémentaires qui n'étaient pas présents auparavant et qui faisaient énormément défaut à la licence depuis toutes ces années, qui étaient vraiment réclamés par les fans. Je crois qu'il y avait un mode carrière dans lequel on crée sa propre écurie, cette fois par exemple, qui va être intégrée.
C'est ça, il y a plein de nouvelles choses qui vont être intégrées. Moi, j'ai plus joué à une build qui n'est pas tout à fait terminée. Le jeu va sortir le 10 juillet, donc on est sur la fin du développement. Hein. On n'est pas loin, justement, de la version prête, j'allais dire, à imprimer. Ça va sortir sur quasiment tous les supports, sauf Switch. Ça va même sortir sur Stadia. Donc, c'est la version que j'ai essayée. Il y avait 8 circuits à peu près, dont 2 nouveaux circuits. Ça, c'est aussi du contenu qui va être nouveau. En fait, je vais vous en parler en deux parties. La première partie, ça va être un petit peu ce que j'ai pu en ressentir. La seconde, c'est un petit rappel des nouveaux modes de jeu et de ce qu'ils vont impliquer, parce qu'on a eu avec cette bulle de présentation une vidéo des développeurs qui nous montrait un petit peu tout ce qui allait arriver dans le jeu. Ça nécessitait pas forcément que j'y joue, justement, mais la première partie, en tout cas, qui concerne le jeu, et la chose qui, comme toujours, saute aux yeux quand on joue à un jeu, c'est les graphismes. On va pas avoir un gap qui est énorme sur les graphismes. Ils ont élargi un petit peu la vision. Ils ont modélisé une vingtaine de kilomètres autour des circuits. Ça n'a pas d'intérêt majeur pour la conduite parce qu'évidemment, tu vas pas avoir un angle de vue de 20 kilomètres quand tu es en train de conduire, surtout que tu as une vision en tunnel. Mais par contre, au niveau de la présentation, vous savez, ces vues d'hélicoptère où on voit les circuits, ce qui se passe autour, bienvenue pour le Grand Prix de Zandvoort ou de Monza ou que sais-je, ça te permet de t'immerger un petit peu dans le jeu un petit peu mieux, puisqu'évidemment, il y a toutes les licences de la FIA. D'ailleurs, c'est un jeu qui est tellement proche de ce qui se fait à la télévision que les youtubeurs qui font des vidéos dessus s'arrachent les cheveux parce qu'ils se font tellement striker par la FIA à chaque fois qu'il leur dit « vous avez diffusé un Grand Prix » alors que c'est le jeu. Deux semaines après, ils peuvent enfin avoir leur diffusion, mais à chaque fois, ça leur retombe assez régulièrement sur la tête. Donc graphiquement, le gap n'est pas énorme. Au niveau des sensations, par contre, de conduite, c'est extrêmement intéressant parce qu'on sent encore mieux les différences de performance entre les voitures. Par exemple, une écurie qui sera moins en vue, on va sentir que la tenue de route est moins bonne, que l'arrière va se dérober un petit peu plus facilement. Donc en sortie de virage, il faudra accélérer moins fort, mieux gérer sa voiture. Vous pouvez être le meilleur pilote du monde. Si vous n'avez pas les talons qu'il faut pour être en tête, vous n'y arriverez pas. Malgré tout, il y a un plaisir de conduite parce que sur les sensations longitudinales, c'est-à-dire ce qu'on va sentir sur les côtés, on sent le moment où la voiture va perdre le grip, on sent le moment où elle part et on arrive encore à la récupérer. Et on sait aussi quand on rentre trop vite ou qu'on sort trop vite d'un virage, quand on va la perdre complètement, il n'y a pas de sensation du tout de se dire « je ne sais pas ce qui se passe, je ne sens pas la voiture ». Ça, c'est important parce que même en milieu de peloton, on se fait plaisir, pas forcément être en tête. Surtout qu'il y a une nouvelle gestion d'un système qui s'appelle l'ERS, donc qui est la récupération de l'énergie, que vous allez pouvoir réutiliser quand une voiture freine ou qu'elle décélère, on va emmagasiner de l'énergie. C'était un petit peu compliqué dans le 2019, il y avait 5 modes d'utilisation de l'ERS. Là, ça a été simplifié, ça ressemble un petit peu plus à ce qui se fait en réalité. Vous avez le mode 0, 1, 2 et 3. Pour résumer, le 0, vous n'utilisez pas du tout l'énergie. Par contre, vous en emmagasinez énormément, vous remplissez votre jauge si vous voulez. Le 1, c'est l'utilisation normale, on charge un petit peu plus qu'on utilise. Le 2, on va décharger plus qu'on va charger, donc on va perdre un petit peu cette énergie au fur et à mesure. Et le 3, c'est le mode qualification, on va essayer de faire le meilleur temps possible. Et bien cette gestion de l'ERS que vous allez avoir en course, elle va être permanente, et ça va, en plus de la conduite que vous devez avoir sur votre circuit, prendre les bonnes trajectoires, prendre en compte les adversaires, se défendre sur les trages pour pas se faire prendre l'intérieur quand il y en a un qui est derrière, ça rajoute encore une grosse dimension stratégique, parce que vous pouvez vous dire, je reste derrière ce concurrent-là, je vais essayer de lui prendre l'aspi, je vais économiser mon ERS, et quand ce sera le bon moment et le bon endroit du circuit, je vais régler mon mélange d'essence sur riche, je vais foutre mon ERS à fond, ça va me mettre un coup de boost, et je vais le passer facilement en sortie de ligne droite ou lui faire l'intérieur à la fin de la ligne droite pour rentrer dans le virage. Et inversement, ça me permet de parler un petit peu de l'IA, quand vous baissez votre ERS et que vous avez quelqu'un derrière, et ben vous voyez dans les rétroviseurs la voiture à droite, à gauche, qui essaie de passer, qui change les trajectoires, qui vraiment vous met la pression derrière. Ça donne au jeu un aspect physique réel, ça vous met vraiment dedans, parce que en plus de cette conduite-là, vous devrez vraiment gérer la voiture qui en plus évolue au fil de la course. J'ai fait plusieurs courses sur des durées totales complètes réelles. Il y a la fatigue qui s'installe, pas physique évidemment, parce que je suis tranquillement dans un fauteuil, mais psychologique en fait. Je suis à cet endroit-là de la course. Je me dis, est-ce que je vais m'arrêter plus tôt parce que la voiture qui est devant, est-ce qu'elle me ralentit ou pas? Derrière, il est en train de me revenir dessus. Mais quel type de pneu est-ce qu'il a pour me revenir dessus comme ça? Est-ce que son réservoir est vide? Où est-ce que j'en suis moi? Il y a toute une dimension stratégique et un comportement de la voiture qui change avec les pneus qui se dégradent. On sent qu'à un moment donné, on est dans une espèce de moment d'euphorie où la voiture a le bon grip, pas trop d'essence, elle est très performante, mais malgré tout, même si elle est très performante, je sais que les gens qui sont devant, ils roulent une demi-seconde plus vite que moi, donc forcément, sur la course entière, ils me mettent un vent, mais je sais aussi que dans l'arrière du peloton, je peux encore grappiller une place ou deux, et même si on n'est pas en tête, on a un réel plaisir de conduite. Donc ça, c'est une partie qui est très importante, parce que c'est vraiment le cœur du jeu. Ce plaisir de conduite, on va pouvoir le décliner sur deux nouveaux circuits qui sont sortis cette année. Ces deux circuits, c'est Zandvoort et Hanoï. Donc du contenu qu'on pouvait pas non plus montrer, on pouvait montrer Zandvoort, qui est le nouveau circuit, enfin c'est pas un nouveau circuit, mais dans le jeu c'est un nouveau circuit, donc les Pays-Bas, avec la particularité d'avoir un virage qui est relevé, ce qui est assez rare en Formule 1, on trouve plutôt ça sur les circuits ovales aux États-Unis, des circuits qui sont extrêmement bien modélisés, en tout cas de ce que moi je peux en savoir et en reconnaître par rapport aux circuits réels. Il y a des petites modifications sur les circuits qu'on connaît, par exemple à Barcelone, la dernière chicane a été revue pour correspondre plus à la réalité. À Suzuka, il y avait une bosse imaginaire qui n'existait pas sur le circuit qu'on avait dans le jeu, et cette bosse, on la ressentait. C'est des petits détails, mais c'est des choses que les joueurs ressentent et reprochent au jeu au fur et à mesure, parce qu'ils l'ont tellement poncé. Quand on passe 40 ou 50 tours au même endroit et qu'on se rend compte que dans la réalité, apparemment, la voiture ne réagit pas comme ça, voilà, on note ce genre de choses, et on note que eux l'ont pris en considération et ont fait les petites modifications qui s'imposaient. Ça relève de la mise à jour, si vous voulez, du jeu. Ensuite, sur les nouveautés, effectivement, au niveau carrière, il y a deux nouvelles mécaniques qui apparaissent. Les deux principales, c'est l'amélioration des blocs moteurs, c'est-à-dire que quand vous avez un bloc moteur Ferrari, par exemple, si Ferrari sort un nouveau moteur ou sort une amélioration sur son bloc moteur, évidemment, Ferrari va en profiter, mais toutes les écuries qui utilisent son bloc moteur vont également en profiter. Ça aussi, c'est quelque chose qui colle beaucoup plus à la réalité. Quand vous choisissez un motoriste, vous n'allez pas forcément avoir les dernières avancées, les dernières nouveautés qu'il a sur son moteur, mais vous signez un contrat pour avoir le meilleur moteur possible de ce constructeur-là. Et là, en l'occurrence, vous allez avoir des différences entre les moteurs. Certains vont être plus fiables, d'autres vont être plus performants sur des courses qui nécessitent une régularité, d'autres vont monter plus haut dans les tours. Enfin, il y a des différences qui s'entendent et qui se ressentent. Au niveau des blocs moteurs, et qui vont être rendus maintenant dans la carrière en fonction du bloc que vous allez avoir. D'ailleurs, au passage, ils ont retravaillé les 100 moteurs qui correspondent beaucoup plus à ce que vous pouvez voir dans les caméras embarquées. Pour tous les moteurs, un petit bémol pour le Honda, pour ceux vraiment qui cherchent la petite bête, c'est des moteurs qui ratatouillent un petit peu. On retrouve pas ça encore dans le jeu, mais je pense que c'est le genre de choses qu'ils vont encore ajuster. Ensuite, deuxième grosse nouveauté sur la carrière, donc le mode carrière qui existait déjà dans le 2019 et qui est repris dans le 2020, vous avez la possibilité, quand vous avez de nouvelles pièces de votre recherche et développement qui apparaissent, de booster, de faire une espèce de crunch time, en fait, hein, de faire bosser les équipes jour et nuit, sauf que si vous faites ça, vous avez votre pièce plus vite, mais vous allez perdre évidemment en fiabilité. Donc, selon le moment du championnat, sur une course où vous avez de gros espoirs, par exemple, on peut se dire qu'à Monaco, on a envie de développer une pièce pour vraiment avoir une meilleure accélération, parce que c'est un circuit où ça va beaucoup compter, on va rusher pour développer cette pièce-là, au risque de l'avoir cassée en course et puis de devoir abandonner. Donc il faudra que vous fassiez ces risques et ces choix un petit peu cornéliens dans le mode carrière, qui, par ailleurs, pour le reste, va évoluer à peu près de la même façon, avec encore le petit patch d'une gestion de contrat. Pour le pilote, là c'est plus la voiture qu'on gère et qu'on améliore selon un arbre de développement, ça va être le pilote qui va pouvoir, en fonction de l'argent qu'il gagne et en fonction des contrats qu'il négocie, qui peuvent se renégocier aussi pendant la saison, avoir un staff autour de lui pour augmenter sa réputation, pour augmenter aussi les retours qu'il peut faire sur la voiture, lui apprendre à, ça me fait penser à Cool Trickle dans Jour de Tonnerre, pour qu'on lui apprenne un petit peu à dire bah la voiture elle chasse de derrière, etc. Là ils ont essayé de rendre ça un petit peu avec des conseillers derrière, c'est un petit peu comme les kinés que vous pouvez avoir autour, sauf que là ça vous améliore vos points de recherche et développement, parce qu'ils estiment que vous arrivez à mieux dire ce qui va pas sur la voiture et mieux orienter les ingénieurs, ou ça vous augmente par exemple votre réputation parce que vous avez un gars qui va faire le community management. Toutes ces choses là sont des petits bonus, et là, encore une fois, on parlait de contextualisation tout à l'heure, ils ont réussi à bien contextualiser ça en mettant au lieu de dire vous améliorez de 2 points avec votre point d'expérience, ben vous avez un gars qui va vous gérer vos réseaux sociaux et vous allez comme ça améliorer votre popularité. Donc ça, c'est assez bien trouvé, c'est une petite nouveauté qu'il y a. Et encore sur le mode carrière, au lieu de choisir votre rival, ça c'est une petite supposition, mais ils nous ont dit qu'il allait avoir beaucoup plus l'accent sur les interviews qu'on avait dans le jeu. À la fin d'une course ou avant une course, on demandait les impressions du pilote sur la qualification, sur ce qu'il pensait de sa course ou d'autres pilotes. Il y a des chances que cette fois-ci, au lieu de désigner un rival de façon bête et méchante, j'allais dire, dans une liste, il est possible que les réponses qu'on donne au moment des interviews puissent désigner ses rivaux. Quand par exemple on va aller chambrer un gars en lui disant « lui il est dangereux, il conduit n'importe comment », et bien peut-être que la course suivante, ce sera votre rival. Ça n'a pas été dit de façon explicite, donc c'est pas certain, mais je dirais à 80% que c'est le genre de choses qu'on pourrait avoir dans les interviews. Donc ça, c'est pour, encore une fois, le chapitre amélioration de la carrière déjà existante. En revanche, le truc effectivement qui est tout nouveau, c'est le mode My Team, et qui effectivement va répondre à une grande demande des joueurs, c'est-à-dire être propriétaire, manager et pilote de sa propre écurie. Donc ça, sans rentrer dans la précision de jeu de gestion, où le but du jeu, c'est vraiment de gérer l'écurie, on va avoir la possibilité de créer de A à Z son écurie avec les logos, les combinaisons, les casques, bien évidemment le nom de l'écurie, et vous allez devoir gérer une écurie sur toute sa saison, sur toute son année. C'est pas juste aller d'un circuit à l'autre, c'est gérer le temps entre les courses, c'est-à-dire l'entraînement des pilotes, le développement des pièces, améliorer également améliorer la fiabilité de ces pièces, gérer les contrats de sponsors parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, gérer les relations avec les journalistes. Est-ce que je dois faire un événement spécial où j'envoie mes pilotes faire un événement avec le sponsor et ramener de l'argent, ou est-ce que je fais bosser mes ingénieurs ou mes pilotes à l'entraînement pour qu'ils améliorent leur performance? Ça, c'est les choix cornéliens qu'il va falloir faire, parce que le pilote secondaire que vous allez choisir, ou le pilote numéro 1, vous pouvez parfaitement dire que vous êtes le pilote numéro 2, il faut l'engager, il faut le payer. Au début, comme vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous allez le chercher en Formule 2. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'évidemment, la Formule 2 sera présente. C'est pour l'instant les pilotes de la saison 2009, mais ce sera mis à jour. C'est certain en 2020. Donc, vous avez vraiment tout ce qui est à gérer autour, et c'est votre écurie qui va évoluer. Et quand elle évolue, au début, ben, pour imaginer, vous partez de votre petit garage et vous allez finir comme une grosse team. Une carrière dans F1 2020, c'est 10 saisons. Donc, vous avez le temps de tout développer hein, sur toutes les courses qu'il y a à faire dans une année. Et donc, vous allez devoir sans arrêt faire des choix en fait de gestion sur MyTeam. Forcément, vous commencez avec quelque chose qui n'est pas au top. Les développeurs nous ont dit que votre écurie devait normalement être à peu près au 11e rang, donc en milieu de peloton, on va dire, hein, par rapport à une saison de Formule 1 classique, et donc que vous ne soyez pas non plus tout le temps dans les places arrière et que vous puissiez un petit peu batailler et jouer pour avancer. Et ça change fondamentalement les choses de jouer en mode MyTeam, parce que on n'est plus là pour la gagne, on est là pour le plaisir de progresser. On entend souvent les pilotes et puis les écuries de Formule 1, quand on les regarde en interview, se dire « voilà, bah, l'année dernière, on n'était pas bien, cette année, on a progressé », ou inversement. Et pourtant, c'est des voitures qui marquent des points de temps en temps, mais qui sont rarement sur le podium. Et là, on comprend tout le plaisir qu'on peut avoir à faire évoluer une équipe et à la faire avancer, même en étant en milieu de peloton, parce que une petite amélioration quelque part va permettre de grappiller des points, ou c'est pas forcément moi qui vais avoir le plaisir d'être sur un podium, de gagner ou de dépasser. Si je vois que mon pilote numéro 2 est devant, et ben je peux dire éventuellement le laisser pusher ou le protéger pour que lui il aille devant et là il grappille les points. On gère une équipe, on n'est plus juste là pour sa pomme et pour sa bagnole. Donc c'est une façon d'aborder les choses qui va être différente pour vraiment s'approprier le jeu, s'approprier son équipe. C'est un fonctionnement très organique qui a l'air de s'organiser autour de ça. Encore une fois, dans la bulle que j'ai moi, j'ai pas pu voir comment ça se passait exactement, mais sur les explications qu'ils ont données, ça rendait de façon tout à fait cohérente. Ça ne change pas le corps et la moelle du jeu, mais par contre, ça lui donne un enrobage qui est super, parce que le système des interviews va être utilisé de la même façon aussi par rapport à l'équipe. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pilote qui va répondre. Là, vous allez aussi répondre en tant que team manager. Donc, il y aura peut-être des rivalités aussi d'équipe. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, nous donnent un jeu qui va être hyper complet pour la Formule 1, qui était déjà référence. Même s'il n'y a pas de concurrence, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Là, on a vraiment un gap sur cette version 2020 qui sera une mise à jour sur pas mal d'aspects et avec des nouveautés suffisantes pour encore immerger les joueurs qui aiment la F1 dans cet univers-là et dans tout ce que ça peut comporter. On n'est pas trop loin dans la gestion. Je pense qu'ils ont un équilibre là qui part sur quelque chose d'assez intéressant, parce que ce serait aussi pénible de gérer des tableaux Excel avec des rentrées d'argent, des sorties ou des temps de développement de pièces et ce genre de choses.
Oui, mais ils ont... Des simulations de management F1, ça existe aussi
Ça existe, et puis voir les petites voitures tourner. D'ailleurs, F1 Manager est un très bon jeu à ce titre-là. Mais là, le but du jeu, c'est quand même de rouler. Mais là, on roule dans un univers et dans quelque chose qui nous englobe dans un jeu qui vraiment est holistique sur sa façon d'appréhender la F1. Et puis, je leur fais confiance sur la modélisation des voitures. Les visages des pilotes sont encore un petit peu cireux. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut leur reprocher, mais ça reste de l'ordre du détail. Ils cèdent aussi un petit peu à la mode de se personnaliser le pilote. Dans le mode MyTeam, par exemple, vous pourrez choisir votre célébration de victoire. Donc, soit parmi celles qui existent, peut-être d'autres que vous pourrez créer, vous, si vous avez la chance d'être sur le podium, ou si vous ratez quelque chose, d'avoir des animations. Ça, c'est des choses, j'ai l'impression que ça vient des Battle Royale où on est un petit peu en train de collectionner les attitudes. Là, il y aura aussi un petit peu des choses d'attitude, mais qui seront importées de la vraie vie, de ce que font les pilotes quand ils sont sur les podiums, balancer le champagne ou prendre les camarades ou les autres pilotes par les épaules, ce genre de choses-là. Ça reste de l'ordre du détail, mais c'est parfois ces petits détails-là qui donnent aussi tout le sel au jeu. Vraiment, je pense qu'encore une fois, on aura l'impression d'être devant un vrai Grand Prix de Formule 1, et en plus de gérer les choses qui arriveront après. Donc moi, je suis pas du tout inquiet pour sa sortie. Ça va être un succès, et je pense que on se dirige vers quelque chose qui sera à conseiller à tous les fans de F1 et qui restera le maître étalon en la matière.
Très bien, donc ce sera une bonne occasion, d'après toi, comme ça se présente, de célébrer les 70 ans de la F1 cette année.
Tout à fait, d'autant plus que, évidemment, ils vont vouloir ratisser plus large. Je ne vous fais pas le discours, mais toutes les aides sont activables, désactivables, et on arrive comme ça, avec le niveau de difficulté aussi, à trouver toujours chaussure à son pied ou roue à son circuit, si je puis dire, et arriver à s'en sortir de l'arcade totale jusqu'à la simulation presque la plus poussée.
Très bien, bah écoute, merci pour ce résumé très complet concernant F1 2020. Si vous êtes fan de F1 et que vous avez entendu deux pas et qu'à la fin vous me dites il manque pas un truc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va pas, je vous le dis tout de suite. C'était vraiment extrêmement complet. Et j'imagine que Trace fera un compte-rendu de tout ça et qu'il nous dira que Hamilton...
C'est de la merde.
Voilà, que Hamilton est un génie et Ferrari c'est de la merde, voilà, comme à chaque fois, comme tous les jours. Merci en tout cas pour ces impressions sur F1 2020. On va passer maintenant à l'anniversaire de la semaine. Et l'anniversaire de la semaine, bah c'est Bibi qui s'y colle, parce que on va parler d'un jeu très important pour moi déjà pour commencer, puis pour le jeu vidéo de manière générale, puisque il y a 10 ans, le 18 mai 2010, aux États-Unis, et le 21 mai, chez nous, sortait donc Red Dead Redemption, le premier jeu, pas le premier jeu de la série, puisque juste avant, il y a eu Red Dead Revolver, mais la première approche monde ouvert GTA-like de Red Dead tout court, puisque on arrivait dans un univers, comme je le disais, ouvert, dans lequel on va incarner un ancien hors-la-loi, John Marston, qui, dans sa quête de vouloir absolument se racheter et surtout sauver sa femme et son fils qui ont été malheureusement enlevés par les fédéraux, il va essayer de retrouver ses anciens compagnons d'armes et de tous les abattre les uns après les autres. Un scénario plutôt sombre, une ambiance western jamais vu jusqu'ici, hein. Beaucoup de jeux ont tenté, notamment Red Dead Revolver, qui lui était plus un jeu orienté action et très très tunnel, toujours chez Rockstar, mais là Red Dead Redemption a en plus élevé un petit peu le monde ouvert. Alors il est arrivé après GTA 4, mais il a fait beaucoup de choses bien mieux que lui, à mon sens en tout cas, créer un monde encore plus humain, encore plus vivant, vraiment faire une représentation très fidèle, même si parodique, hein, parodique, on va dire vidéoludique de ce qu'était l'Ouest au début du XXe siècle, parce que c'était pas vraiment un western comme nous on en connaît, qui se passe au milieu des années 1800. Là, c'est vraiment la toute fin de l'Ouest. C'est une façon de raconter le crépuscule de ce qu'était l'existence des cowboys, avec l'installation presque définitive des chemins de fer, la fin d'énormément de choses, des gangs que justement les fédéraux essayent de tuer dans ce Red Dead Redemption 1, avec des personnages absolument inoubliables, des quêtes merveilleuses, des accompagnements musicaux là aussi mémorables. On ne parlera jamais suffisamment de ce moment où John Marston arrive au Mexique sur la chanson Far Away de José González, qui, comme son nom ne l'indique pas, est suédois. Et voilà, c'était un jeu qui était brillant dans l'action, qui était brillant dans la découverte, dans l'exploration, dans lequel on pouvait vraiment rester vraiment plusieurs minutes à juste observer ce qui se passait autour de soi, à attendre aussi que la faune vienne s'en prendre à nous, comme ces foutus cougars qui vous pouvez vous tuer en un coup de griffe, par exemple. C'était la découverte de tas de nouveaux endroits, l'arrivée au Mexique évidemment dont je vous parlais, qui est elle aussi un exemple d'inspiration de tous ces westerns pour les plus pointilleux, hein, évidemment, qui connaissent les très très vieux westerns de Sam Peckinpah, entre autres. C'était vraiment alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Étienne Rouillon qui dans le magazine du MK2 du magazine qui était livré dans les MK2, je crois que c'était Trois Couleurs le nom du magazine, qui avait expliqué que le meilleur western de ces dernières années c'était Red Dead Redemption. À l'époque, j'ai jamais été aussi d'accord avec les paroles de quelqu'un, et je pense qu'il avait parfaitement raison, qu'il n'y avait aucun film qui avait réussi à retranscrire cet amour du western d'un côté avec tous ses codes et en même temps à en faire quelque chose de d'aussi amusant, d'aussi ludique par la même occasion. Vraiment, pour moi, il n'y a que le 2 qui le dépasse, voilà. Et vraiment, il le fait parce que forcément Rockstar y a mis plus de moyens, plus de monde, plus de tout, mais Red Dead Redemption encore aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'y jouer, bah allez-y, hein. Il a 10 ans, mais quand vous y jouez encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde ouvert qui peuvent prendre des leçons auprès de lui. Voilà, je ne sais pas si je suis le seul à avoir envie de parler des 10 ans de Red Dead Redemption ici, mais
je suis comme ça. J'ai parlé, moi je n'ai pas joué.
Pareil, ah oui, c'est vrai. Bah bravo, tiens.
Et je joue aux deux, monsieur.
C'est jamais sorti sur PC, donc.
C'est vrai. C'est vrai, t'as raison, c'est jamais sorti sur PC. On attend toujours le remaster sur PC, peut-être qu'il arrivera un jour, qui sait. On va finir ce podcast, évidemment, avec le hors-jeu. Et le hors-jeu, cette semaine, on vous le disait tout à l'heure, c'est une série animée que notre spécialiste des séries, ah non, pardon, du burger, c'est écrit sur le truc, Thomas, donc, va nous expliquer. Donc, ça s'appelle Bob's Burger. La saison 10 vient de se terminer. Et qu'est-ce que c'est Bob's Burger, mon cher Thomas ?
Bah, fais pas comme si tu étais étonné, puisque Traz le cite régulièrement sans que je sois sûr qu'il ait vu le moindre épisode. Ça, c'est un.
Non, sérieusement, je ne le connais pas du tout.
D'accord. Bon.
Même si Traz en parle, je ne sais pas ce que c'est.
Et donc tu n'écoutes pas ton responsable. Là, ce sera évidemment signalé et déformé. Pour faire simple, Bob's Burger, c'est une série d'animation qui emprunte à une autre série qui dure depuis une bonne trentaine d'années, puisque ça nous dépeint les aventures d'une famille, une famille qui tient un restaurant de burgers, donc les burgers de Bob, Bob étant le père, Bob Belcher, qui est joué par H. John Benjamin, que vous avez sans doute entendu dans Archer, qui reprend exactement la même voix, donc c'est assez surprenant d'avoir exactement le même timbre dans ce personnage beaucoup plus placide, et qui, accompagné de sa femme Linda et de ses trois enfants, Tina, Jean et Louise, eh bien, vont vivre des aventures pas extraordinaires. En l'occurrence, c'est entre guillemets un peu terre-à-terre, c'est des aventures du quotidien, mais avec une grande qualité d'écriture et la variété des personnages où les enfants ont un petit peu plus d'espace entre chacun d'entre eux que, par exemple, dans Les Simpsons, pour ne citer que, ça permet d'aborder beaucoup plus de thématiques, puisque Tina, l'adolescente, elle est en pleine puberté. Donc, tout ce qui concerne l'entrejambe des garçons va tout de suite beaucoup l'intéresser et lui faire perdre ses moyens. Jean est un jeune garçon plein d'entrain et qui manifeste une grande volonté artistique. Il a envie de chanter, il a envie de faire de la scène, mais il n'est pas forcément doué pour ça. Et Louise, la petite dernière, qui est, à mes yeux, sans doute l'un des personnages de cartoon les plus fantastiques et les mieux écrits ever, qui est une jeune psychopathe qui ne sait s'exprimer que par le sarcasme et la moquerie. Ça en fait un personnage absolument délicieux.
C'est Daria.
Oui, mais en beaucoup plus agressive. Daria avait ce côté passif-agressif. Louise, elle est beaucoup plus rentre-dedans. Et elle a un appétit pour la mort et la destruction qui tranche complètement avec son jeune âge. Et ça en fait un personnage très, très, très intéressant à suivre. Et on a une atmosphère particulière dans Bob's Burgers, puisque la plupart des comédiens, en fait, qui jouent la famille Belcher se connaissaient avant. se côtoient, et donc il y a une vraie alchimie en fait dans le corps, on va dire, des principaux interprètes, qui se ressent véritablement à l'écran. Et c'est un cartoon dans lequel les comédiens peuvent improviser, et on voit après coup si les parties improvisées sont gardées ou non. Et du coup, ça enrichit énormément l'écriture, qui est déjà à la base quand même sacrément chouette. Et surtout, ça fait partie de ces cartoons pas très clean dans le mixage audio, puisque comme dans la vraie vie, les personnages dans Bob's Burgers s'interrompent parlent les uns par-dessus les autres, et on a quelque chose de très réaliste finalement. C'est vraiment un tout petit détail. Mais comparé à des cartoons véritablement bien chartés, découpés, cisaillés finement, là on a quelque chose de beaucoup plus brut et de beaucoup plus réaliste en fait, puisque c'est quand même les histoires d'une famille qui tient un restaurant qui, on va le dire, fonctionne pas forcément bien, qui fait travailler les enfants. Mais il y a énormément de thématiques qui sont abordées, et ça me fait déjà 10 ans en fait que la série existe, et c'est pas une série qui jouit d'une très grande réputation en France, alors que ça fait partie pour la Fox, qui la diffuse aux États-Unis, des cartoons qui sont diffusés pendant Animation Domination, qui est la soirée thématique des cartoons de la Fox, où on retrouve évidemment Family Guy, The Simpsons, les gros standards de la chaîne. Et pour le coup, ça fait quand même déjà 10 ans que la série existe, et qu'elle ne fait que progresser en termes d'écriture, je trouve. La saison 10 qui s'achève et qui prépare aussi l'arrivée d'un film l'année prochaine, puisqu'il y a un long métrage qui va sortir, qui devait sortir en 2020, qui, à cause d'un certain virus, a été reporté au printemps 2021. Il sortira le 9 avril. En tout cas, c'est la dernière date que Disney a dévoilée. Et c'était une bonne occasion finalement de parler de cette série qui, en tout cas en VO, propose quelque chose de vraiment super bien pensé, avec un humour généralement pince sans rire, pas très américain pour le coup, mais qui marche véritablement très bien, et qui permet, au travers de ce petit groupe, de cette famille, famille nucléaire, d'aborder énormément de thématiques avec souvent beaucoup de justesse. Et c'était l'occasion justement de vous en parler un petit peu. Et il y a quelques épisodes, il y a, comme dans pas mal de séries animées, des récurrences, c'est-à-dire que pour Thanksgiving, vous avez toujours un épisode dans lequel Bob va être épris d'une dinde qu'il va cuisiner, à qui il va parler avec amour, avec passion, il va lui raconter des choses, il va non pas lui faire l'amour, mais presque, en tout cas. Il y a des thématiques comme ça qui reviennent, qui sont assez rigolotes. Et là, en fin de saison, justement, parce que à l'heure où on enregistre, la saison 10 s'est terminée il y a seulement quelques heures sur la Fox, on a eu un épisode assez dingue sur les Shy Poopers. Alors, je ne sais pas comment on traduit en français. En tout cas, les gens
timides du caca.
Voilà, les gens timides du caca, ceux qui ont beaucoup de mal à aller déféquer dans les toilettes publiques, par exemple, quand il y a du monde autour.
Ah oui, c'est moi.
Voilà. Ouais. Ben voilà, donc les plumes, ça va me permettre de trouver un
nom. Appelle-les les plumes, vas-y.
Et ben il y a tout un épisode là-dessus où Bob le père et Louise la cadette se découvrent ce trait commun qui va les rapprocher du coup. Et il y a tout un épisode vraiment super bien écrit sur le caca timide et comment on parvient éventuellement à passer par-dessus ses appréhensions. Donc peut-être que ça t'apportera des clés pour réussir dans ta vie, mon cher plume, je ne sais pas.
En tout cas, de me donner ce tuyau là, ça va m'intéresser.
En tout cas, voilà, c'est une série qui mérite d'être un petit peu plus connue, parce que vraiment elle a un cast d'acteurs qui excelle dans leurs performances respectives. Et c'était l'occasion, peut-être pour vous, de découvrir Bob's Burgers. Alors, si vous ne la connaissez pas, la première saison, comme beaucoup de séries, met un petit peu de temps quand même à se mettre en place. Il faut poser les bases, construire les personnalités, définir les enjeux, les relations entre les personnages. Mais très rapidement, dès la saison 2, ça grimpe, ça prend du rythme, et ça fait 10 ans, et ça continue, et a priori, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque il y a une semaine, la Fox a annoncé que la série était reconduite pour une 11e saison. Donc, a priori, c'est parti pour durer.
Et si on veut regarder en France, le meilleur moyen de regarder, c'est quoi ?
Alors, en France, elle est diffusée sur MCM, sur Télétoon Plus, et elle est a priori aussi disponible sur le service Hoku, qui est un service de vidéo à la demande de France Télévisions, que, à titre personnel, je ne connais absolument pas. Mais c'est ce que m'a dit Internet, ce qu'on m'a murmuré dans l'oreille. Donc, a priori, vous avez 3 plateformes différentes sur lesquelles la voir, sachant que je n'ai jamais eu l'occasion de voir la VF, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais vu qu'il y a une bonne partie d'improvisation, comme dans Les Simpsons, je pense qu'on a quand même une belle déperdition sur la fidélité de l'interprétation originale.
Très bien. Donc, Box Burger, n'hésitez pas à regarder si vous voulez faire plaisir à Thomas avant qu'il nous parle de sa prochaine série, parce qu'en ce moment, il consomme. Il consomme. Hein, alors, faites attention. Essayez d'aller vite quand vous allez regarder cette série-là. Merci.
Tu ne crois pas si bien dire, parce que la saison 4 de Rick and Morty se termine dans quelques semaines, donc j'aurai l'occasion de vous en parler, parce qu'elle est d'ores et déjà fantastique.
Ok, très bien. Eh bien, nous parlerons de ça dans quelques semaines. On se donne rendez-vous, comme dirait un certain Monsieur Lopez. Merci eh bien, maintenant à vous trois d'avoir complété, on va dire, totalement ce podcast. Pendant toutes ces longues minutes. Merci Thomas, merci Camille, merci Dopa.
Merci.
Que Dieu bénisse l'Alsace, toujours. et merci pour nous avoir éclairé à fond sur F1 2020. Merci à Poufy, évidemment, à la technique qui galère pas mal de temps en temps à cause de ce confinement, mais qui arrive à maintenir le cap comme il faut. Merci à vous de votre fidélité, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. N'oubliez pas d'aller faire chier Traz, hein. Ça serait bien qu'il revienne. Moi, j'ai déjà plus de voix là, vous entendez. Donc, c'est le moment d'aller lui en parler.
Voilà, on
se retrouve logiquement la semaine prochaine pour un autre podcast d'actualité. Et on vous dit à très vite. Ciao.
Salut.
Gros bisous.